et diverses formes de pensée critique à partir d'exemples historiques et contemporains. Force est de constater tout de même que les pensées critiques s'expriment aussi hors de l'édition indépendante. Alors, je reviendrai aussi sur le terme d'indépendant. Un nombre de penseurs radicaux, enfin considérés comme radicaux, sont publiés par des éditeurs intégrés à des groupes. Hein, je pense à La Découverte ou Fayard et beaucoup d'autres. Et à l'opposé, l'indépendance éditoriale n'est pas forcément synonyme de pensée critique. Il y a évidemment une multitude d'éditeurs indépendants qui publient toutes sortes de livres dans toutes sortes de secteurs et qui sont très éloignés d'une définition même large de la pensée critique. Donc il n'y a pas d'automatisme entre ces deux syntagmes, loin de là, mais tout de même une forte corrélation, comme on va le voir. D'où la nécessité, il me semble, de déconstruire ces deux expressions, édition indépendante, pensée critique, avant de se pencher sur les liens existants entre les deux, aussi sur les contradictions et les ambiguïtés qui en découlent. Donc c'est le plan que je propose de suivre dans cette présentation. Alors, une précision importante, c'est que bon, je ne vais pas aborder ce thème de manière générale, ce qui me conduirait beaucoup trop loin et je ne serais pas forcément très compétente pour le faire, mais je vais partir d'un cas particulier, celui que je connais le mieux, qui est celui des éditeurs publiant dans le domaine de la critique sociale et des sciences humaines, qui sont apparus en France, en gros, à partir du milieu des années 80, et qui sont beaucoup développés dans les années 90 et toujours enfin jusqu'à aujourd'hui, et que donc j'ai étudié dans ma thèse. Alors, d'abord pour ce qui est de l'examen des termes, qu'est-ce qu'on peut appeler l'édition indépendante à l'heure actuelle ? Alors, je me hâte de préciser que le terme indépendant ne veut pas dire grand-chose en soi. On est toujours dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un terme qui ne se définit que de manière relative. Dans les industries culturelles, il renvoie à plusieurs dimensions plus ou moins liées, ce qui fait que c'est un terme extrêmement complexe. Alors j'ai essayé de faire une sorte d'archéologie de ces dimensions en simplifiant le plus possible. Alors la première, c'est une dimension économique et juridique. Être indépendant, c'est celui qui s'oppose aux grands groupes et de manière implicite à la domination des logiques commerciales, mercantiles, qui sont généralement associées au travail dans des grands groupes éditoriaux. Une seconde dimension qui est d'ordre politique, alors là c'est indépendant au sens de la contestation de l'ordre dominant, d'expression d'une pensée subversive. Troisième dimension de l'indépendance, une dimension artistique qui renvoie plus clairement à la notion de l'art pour l'art qui s'est développée au XIXe siècle. Donc là, on est dans une logique de contenu développé et d'indépendance par rapport à la demande, donc la logique de l'art pour l'art. Cette relative confusion entre ces différentes définitions fait que lorsque l'on parle d'édition indépendante, on se trouve aux prises avec un terme extrêmement polysémique, plastique, qui est idéologiquement très chargé dans l'univers de l'édition, pas seulement, mais particulièrement dans l'univers de l'édition, et qui va être très fortement investi par les acteurs du livre au sens large. Alors à la fois les auteurs, les éditeurs, mais aussi les critiques, les journalistes, les acteurs institutionnels, les traducteurs, qui vont se renvoyer des définitions de l'indépendance extrêmement chargées idéologiquement. Donc à l'heure où la logique économique pèse de plus en plus sur les espaces de production symbolique, l'indépendance est assez logiquement devenue un enjeu de lutte, pour reprendre un terme cher à Pierre Bourdieu, dans le champ éditorial, qui va voir s'opposer des définitions concurrentes, caractérisées par un grand nombre d'implicites et de non-dits. Alors pourquoi est-ce que ce terme est devenu un tel enjeu de lutte ? On pourrait évoquer plusieurs raisons, mais je voudrais en retenir une principale, qui est que mettre en avant son indépendance dans l'univers éditorial permet de se distinguer au sein d'un espace qui tend à diluer, à brouiller les identités, les acteurs qui se revendiquent indépendants étant extrêmement variés. C'est un espace qui tend aussi à mettre en concurrence des structures qui travaillent dans des conditions très, très différentes. On voit Gallimard qui se présente comme le grand éditeur indépendant français et des microstructures artisanales qui travaillent avec trois bouts de ficelle et des moyens économiques totalement dérisoires. Donc à la fin des années, ce qui a contribué à exacerber cette mise en concurrence, c'est qu'à la fin des années 1990, enfin au milieu des années 90, le succès rencontré par les petits ouvrages de Raison d'agir, donc la structure éditoriale créée par Pierre Bourdieu en 1996. Alors je rappelle les deux premiers titres publiés par cette maison, T'es sur la télévision, donc de Pierre Bourdieu, et Les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi, qui se sont vendus à plus de 200 000 exemplaires en quelques années chacun. Bon, ce qui était vraiment des chiffres totalement inédits, enfin qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans ce secteur. Mais alors, le succès de Raison d'agir, qui a vraiment été un moment phare, mais d'autres petits éditeurs aussi, dont certains plus oubliés, comme L'Esprit Frappeur. Alors, je ne sais plus si j'ai pris un exemplaire de L'Esprit Frappeur, je voulais vous montrer. Oui, voilà. Je vais faire circuler certains ouvrages de maisons d'édition peut-être un peu moins connus. Donc L'Esprit Frappeur qui va connaître un grand succès avec des courts documents d'actualité. Alors bon, le fait est que celui que j'ai pris n'est pas court, il est plutôt plus important au niveau de la pagination, mais en général c'est des tout petits ouvrages vendus très très peu cher, 400 francs à l'époque, et qui là aussi vont connaître un grand succès et contribuer à faire de la pensée critique une véritable niche éditoriale, un créneau de développement potentiellement lucratif pour tous les acteurs du champ éditorial. Donc la plupart des maisons d'édition généralistes et des filiales de groupes vont développer de manière assez cohérente des productions qui concurrencent directement les petits éditeurs indépendants qui s'étaient positionnés sur ce secteur et en se positionnant très efficacement sur leur propre terrain et en utilisant, d'une certaine façon, en reprenant leurs thématiques, en pillant un certain nombre d'auteurs, en reprenant des formes éditoriales aussi, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, et même dans certains cas, leurs lignes graphiques. Et là encore, tout en s'appuyant sur des moyens humains, médiatiques, financiers, totalement disproportionnés. Donc quelques exemples de collections de critiques sociales créées au sein de l'édition mainstream dans les années 90 et 2000. Alors il y a la collection Révolution chez Actes Sud qui était animée par Gérard Guégan, qui est un des anciens responsables des éditions Champs Libres, donc une personnalité avec une symbolique forte. La collection des Petits Libres chez Mille et Une Nuits, en association avec Attaque. La République des Idées, au Seuil, une collection qui a connu un grand succès aussi, enfin qui connaît toujours un succès important, et qui entend promouvoir une nouvelle critique sociale, et qui va développer une ligne graphique très très et un format très très proche de ceux de Raison d'agir. Et enfin, bon, il y en a énormément, hein, je vous en cite que quelques-unes, hein, les plus emblématiques. Et puis La Découverte, avec en particulier le label Zone, qui se présente comme, alors je cite, un espace de résistance éditoriale centré sur la contre-culture, l'activisme et les nouvelles formes de contestation. Donc un argumentaire qui reprend presque mot pour mot la rhétorique des éditeurs critiques que j'ai étudié. Donc on voit qu'il y a une confusion vraiment très très forte dans l'espace éditorial avec cette remise au goût du jour des idéaux critiques qui permettent d'engranger un certain nombre de profits de radicalité qui ne sont pas négligeables dans ces espaces. Alors cette concurrence, elle se manifeste aussi et de manière vraiment très importante sur le fait que certains auteurs, et en particulier des auteurs étrangers, que ces petits éditeurs avaient contribué à faire connaître en France, sont progressivement récupérés par les éditeurs généralistes capables d'offrir des avances sur droit beaucoup plus conséquentes et d'assurer des moyens de promotion sans commune mesure avec ceux d'éditeurs très fragiles financièrement. Alors deux exemples. Chomsky, ses premiers ouvrages d'intervention hors linguistique, hein, je ne parle pas du tout de ses ouvrages de type académique linguistique, ses premiers ouvrages d'intervention sont parus chez plusieurs petits éditeurs à partir des années 1990, Le Temps des Cerises, Agone, Les Arènes, Aden, Alia, enfin un grand éparpillement aussi entre divers petits éditeurs. Et depuis le début des années 2000, il est principalement traduit par Fayard, qui a traduit 8 titres entre 2002 et 2010. On observe le même phénomène avec le philosophe slovène Žižek, qui a connu en France une reconnaissance très progressive, qu'on a tendance à oublier parce qu'il est devenu très, très connu aujourd'hui. Mais dans les années, au début des années 90, c'était un personnage important déjà dans le monde anglo-saxon et assez peu connu en France. Alors, il a d'abord été traduit par plusieurs aussi petits éditeurs indépendants et universitaires, presse universitaire de Rennes, Nautilus, Amsterdam, Climat. Et au moment où son image de philosophe iconoclaste commence à s'imposer, il passe au catalogue d'éditeurs plus renommés, principalement Flammarion, Le Seuil et là aussi Fayard. Donc juste ces deux exemples pour vous montrer à quel point les éditeurs critiques sont confrontés à une concurrence forte qui les oblige à réaffirmer leur singularité, à se différencier des imitations produites par produites par des éditeurs appartenant à des groupes plus ou moins importants. Donc c'est dans ce cadre, enfin cette digression pour revenir au thème de l'indépendance, qui permet bien d'expliquer pourquoi l'indépendance est devenue une ressource aussi importante dans ce combat. Parce qu'insister sur son indépendance, la mettre en scène de diverses façons, est le moyen pour des structures dominées sur le plan économique, très marginales dans le champ éditorial, de marquer un espace valorisant qui s'oppose à l'édition telle qu'elle est pratiquée par les grands groupes intégrés à partir de critères relativement flottants, comme on va le voir. Donc ça équivaut à créer de la distinction, là où on a plutôt affaire à un continuum de positions assez proches et peu distinguables si on se pose du côté du public, à part une fraction mineure de lecteurs qui sont par ailleurs liés à des mouvements militants ou très engagés. Les trois quarts des gens qui lisent des livres de sciences humaines ou critiques sociales font assez peu attention, comme en littérature, au nom de l'éditeur. Ils sont assez peu sensibles à des arguments comme quoi Zone n'est pas un vrai éditeur indépendant. Donc, ceci étant posé, il reste quand même un problème sérieux pour l'observateur. Sur quels critères objectifs on peut se fonder pour s'accorder sur quelque chose quand on parle d'édition indépendante? Parce qu'on peut gloser très longtemps comme ça sur le caractère insituable, flou de l'indépendance, mais quand on travaille sur ces notions-là, il faut quand même s'accorder sur des choses qui soient objectivables. Quand on a autant de définitions concurrentes qui reposent pour la plupart sur des connotations, enfin sur des définitions normatives, c'est extrêmement compliqué. En particulier, je pense à une définition qui est presque de l'ordre du sens commun, qui est qu'à partir d'une certaine taille, d'un certain volume de chiffre d'affaires et de nombre de salariés, par exemple, de facto, on ne serait plus dans l'édition indépendante au sens strict du terme. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à objectiver, mais qui relève vraiment du sens commun qu'on partage tous, plus ou moins. Alors, un ouvrage publié par le responsable de la maison d'édition Agone à Marseille, « La trahison des éditeurs », publié en 2011, est venu relancer récemment cette question de manière très polémique et il me semble très intéressante, puisque l'auteur, dans ce livre, dénonce les ambiguïtés des discours sur l'indépendance en faisant, d'une certaine façon, le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre les authentiques indépendants et puis les vulgaires imitations comme Actes Sud et Gallimard. Alors, l'idée principale de ce livre, c'est que au-delà de l'opposition classique entre entreprise éditoriale et groupe de communication, qui serait par nature, ne pourrait pas faire de la bonne édition, il faut regarder comment travaillent les uns et les autres, et s'ils sont animés par des motivations mercantiles, se développer, faire des profits, transformer les lecteurs en consommateurs, c'est une citation de l'ouvrage, ou alors s'ils sont animés par des motivations plus nobles, qui seraient publier des ouvrages singuliers, pas comme les autres, qui ne soient pas de simples marchandises. Et là, on a vraiment le thème de la marchandise qui est très, très important, qui revient tout le temps dans les argumentaires de ces éditeurs, qui sont vraiment dans la lignée de l'école de Francfort, de Benjamin Adorno. Les livres ne sont pas des biens comme les autres, ce ne sont pas des marchandises. Traiter les ouvrages comme des marchandises, c'est être un marchand de canon comme Hachette ou des gens qui ne devraient pas être dans l'édition, ou alors qui font de l'édition, mais il s'agit de tout à fait autre chose. et encore moins, qui peut être encore moins de l'édition critique. Donc il y a une réaffirmation de la forme légitime de la pratique éditoriale. Il y a une forme légitime et il y a une forme illégitime. Et la forme légitime, c'est de se situer dans une logique désintéressée, qui est marquée par le désintéressement de type, encore une fois, d'art pour l'art. Hein. On est très très proche des conceptions artistiques qui sont développées au XIXe siècle. La publication de livres exigeants, de qualité, alors là, que ça soit en poésie, hein, ça peut être très large, ça dépasse le champ des sciences humaines et des ouvrages critiques, est présentée comme une fin en soi. La réussite économique n'étant qu'un moyen sur lequel on peut difficilement faire l'impasse, mais idéalement, il faudrait pouvoir faire l'impasse sur ce moyen pour ne publier que ce qui est important, que ce qui a de la valeur. Donc on voit ici à quel point le thème de l'indépendance permet de contourner un certain nombre de tensions inhérentes au bien culturel double, cette tension qu'évoquait Pierre Bourdieu lorsqu'il parlait de la tension entre l'art et l'argent, c'est-à-dire que les livres sont à la fois des idées, des contenus symboliques, mais aussi des supports matériels ou immatériels, mais qu'il faut vendre. Donc pour dépasser cette tension qui est inhérente à tous les espaces de production symbolique et de manière particulièrement exacerbée dans le monde du livre, la revendication de l'indépendance est une ressource très très utile qui fait qu'on va pouvoir mettre en avant une logique désintéressée tout en s'inscrivant dans une logique de marché, puisqu'il faut bien, vendre les livres pour pouvoir ne serait-ce que continuer à exercer son activité. Mais caractériser, une fois encore, de manière objective, cette exigence éditoriale qui est si fortement mise en avant par l'auteur du livre « La trahison des éditeurs » et par plusieurs autres, ce désintéressement qui est censé différencier de manière radicale les petits éditeurs des gros est extrêmement ardu. Alors, le seul moyen d'échapper aux perceptions subjectives, normatives, liées à l'indépendance, tout en leur reconnaissant une valeur réelle, est de recourir à des critères simples. Et j'en ai retenu deux principaux pour pouvoir travailler avec ce matériau. Le premier, c'est l'indépendance sur le plan capitalistique et juridique. Donc, être un éditeur indépendant, c'est posséder 100% de son capital, sans qu'une banque ou un éditeur plus important fasse partie de ce capital, en sachant qu'il y a aussi beaucoup de statuts associatifs et coopératifs dans le monde des éditeurs critiques que j'ai étudié, ce qui est assez logique d'une certaine façon. Quand on veut s'extraire d'une logique capitaliste, le statut juridique de l'association ou de la coopération est un signe fort. Deuxième critère que j'ai retenu, c'est l'indépendance sur le plan intellectuel et politique, c'est-à-dire avoir la maîtrise de sa ligne éditoriale. Alors je cite une éditrice en entretien, je trouve, avait bien résumé les choses. Elle me disait « Être indépendant, c'est travailler dans une maison d'édition dont on maîtrise les orientations idéologiques et intellectuelles. C'est faire des livres dont j'ai la maîtrise totale en tant qu'éditeur. Alors je vais faire des compromis, je vais faire des titres plus porteurs que d'autres parce que j'en ai besoin, mais je maîtrise ma ligne éditoriale. » Donc c'est une acception qui est plus volontariste que celle habituellement retenue, qui est celle du gatekeeper, du filtre, de celui qui gatekeeper, si on traduit littéralement, celui qui garde les portes, mais du filtre entre la masse d'écrits disponibles et ce qu'il va choisir de rendre public, de porter à la connaissance du public. C'est une définition qui est très proche de l'étymologie du mot « éditer », qui vient de « édérer », qui veut dire « donner naissance ». Et elle souligne, ce qui à mon sens est important, la valeur ajoutée qui est apportée par l'éditeur, la tonalité unique qu'il donne à son catalogue par des choix éditoriaux forts qu'il engage personnellement. Et ça, c'est très, très important chez les éditeurs critiques. Ils ont vraiment une conscience forte de ce rôle qu'ils ont. Alors, comme le rappelait Pierre Bourdieu, l'éditeur est celui qui a le pouvoir tout à fait extraordinaire d'assurer la publication, c'est-à-dire de faire accéder un texte et un auteur à l'existence publique, connue et reconnue. Et ce pouvoir symbolique de l'éditeur représente, de ce fait, un enjeu politique qui est de premier ordre. Alors, j'en ai fini sur les digressions sur l'indépendance. Donc maintenant que j'espère l'avoir un peu clarifié tout en le complexifiant, je voudrais voir maintenant, revenir à mon objet premier, donc les petites maisons d'édition critique, et voir un petit peu quelles sont leurs caractéristiques. Alors, les éditeurs que j'ai étudiés sont des structures indépendantes, donc avec tout ce qui va avec ce terme, publiant dans le domaine des sciences humaines et des essais, qui sont animés par une conception politique forte, de gauche et d'extrême gauche, et dont la production se situe au carrefour des secteurs universitaires, militants et grand public. Alors ça, c'est très important, parce que c'est un univers éditorial qui est flou, qui n'existe pas. L'édition critique, c'est pas une catégorie existante, que ça soit pour le Syndicat national de l'édition. Il y a certains libraires qui font des tables. C'est assez marquant. Hein, on a une inscription physique sur des tables de libraires d'édition critique autour de la critique sociale. Donc c'est quand même c'est quelque chose qu'on peut repérer. Mais il y a pas de catégorie professionnelle ou institutionnelle d'édition critique du fait que ce type d'édition se trouve vraiment au confluent de plusieurs univers. Alors, quelques-unes de ces maisons, pour en citer quand même, sont relativement bien connues, comme La Fabrique, d'Éric Hazan, Raison d'agir, Agone. Donc, elles ont acquis une certaine visibilité dans l'espace public. D'autres sont beaucoup plus confidentielles. L'Échappée, Nautilus, l'Encyclopédie des Nuisances, l'Insomniaque. Alors, j'ai pris Le Passant Ordinaire. J'ai pris un petit échantillon, peut-être pour faire circuler des moins connus. Pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent leurs ouvrages si vous ne les connaissiez pas. Alors, il s'agit de structures très disparates, à la fois des micro-éditeurs qui fonctionnent de manière semi-professionnelle, avec des bénévoles qui ont tous un travail en parallèle et qui veulent, d'une certaine façon, échapper à la logique capitaliste en, justement, ne s'inscrivant pas dans une démarche commerciale. Il y a un nombre important d'associations, quelques coopératives, et puis des petits éditeurs très professionnalisés, comme Agone, qui a 6 salariés, et qui publient une vingtaine de titres par an, et sont bien, bien représentés en librairie. Donc, schématiquement, j'ai regroupé ces éditeurs en 4 pôles, qui sont 4 grands profils idéal typiques, qui doivent pas être pris comme quelque chose de statistique, mais vraiment comme des profils idéal typiques. Un premier pôle, qui est constitué de structures politiquement très engagées, le plus souvent issues de la mouvance anarcho-libertaire, qui sont peu professionnalisées. Alors, l'Insomniaque, Dagorno, l'Échappée aussi. Il y en a beaucoup, une bonne dizaine. Un second pôle qui est situé à la croisée du monde médiatique et militant, qui produit une contre-expertise critique, avec l'objectif de produire une contre-expertise critique dans la lignée de l'intellectuel spécifique de Michel Foucault, dont Raison d'agir constitue une bonne illustration, mais aussi Agone, La Dispute, les éditions du Croquant, plusieurs autres. Et enfin, un troisième groupe qui rassemble des maisons qui publient des essais de théorie critique sur le modèle de l'avant-garde. Je pense à Amsterdam, Sens et Tonka, l'Encyclopédie des Nuisances. Alors, plusieurs d'entre elles s'inscrivent dans la filiation situationniste et assimilent radicalité politique et subversion artistique. C'est souvent des éditeurs qui ont une production philosophique importante, en particulier. Et enfin, un dernier pôle qui rassemble des éditeurs qui visent un public plus élargi, plus indifférencié, principalement avec des enquêtes de type journalistique, dont l'exemple le plus abouti serait les éditions des Arènes, qui est vraiment à cheval entre une définition journalistique, critique des médias et plus de sciences sociales. Alors justement, la première caractéristique sur laquelle j'aimerais m'attarder concernant ces éditeurs est celle du choix des sciences humaines comme domaine de publication privilégié. Alors principalement l'économie, l'histoire, la sociologie, dans la mesure où ce sont des disciplines qui permettent d'aborder des questions sociales et politiques en prise avec l'actualité, mais aussi la philosophie, les études de genre, les études postcoloniales, l'urbanisme, l'art aussi. Donc un champ très très vaste de disciplines de sciences humaines. Alors, ce choix me semble d'autant plus remarquable qu'il s'inscrit dans un contexte de crise de ce secteur éditorial depuis la fin des années 70. Alors, tous les discours sur la crise de l'édition de sciences humaines sont vraiment... Enfin, il n'y a pas besoin de chercher très longtemps pour trouver des myriades d'exemples de discours de déploration sur la crise de l'édition de sciences humaines qui vient rappeler le supposé âge d'or des années 60. Bon, il y a eu des écrits intéressants qui sont venus remettre en cause ce topic de la crise dans le secteur des sciences humaines, sur lequel j'ai pas trop le temps de m'attarder. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Mais si, au-delà de ce problème un peu complexe, le fait est que ces éditeurs ont réinvesti le champ de l'édition critique, qui était un champ qui était relativement, bon, pas abandonné. Il y a toujours des éditeurs spécialisés de sciences humaines, très pointus. Les éditeurs généralistes n'ont jamais totalement abandonné le champ des sciences humaines. Mais bon, un secteur beaucoup plus beaucoup moins dynamique que dans les années 70, pour prendre la période la plus récente. Et donc, ils vont réinvestir ce champ considéré comme un peu sans espoir, d'une manière très volontariste et à partir d'une gamme de genres et de formes discursives très variées. Et c'est ça qui est aussi original dans leur publication. Alors, si je schématise, ces formes discursives, elles vont d'un pôle temporel ou engagé dans le monde, ce qu'on peut appeler un pôle engagé dans le monde. Donc, ça va être des enquêtes, des témoignages, des documents d'actualité sur des thématiques très variées, l'immigration, le nucléaire, les scandales financiers, sanitaires, etc., avec des auteurs généralement issus de l'univers associatif, ou militant ou médiatique, et s'adressant à un public plutôt indifférencié, avec une idée de facilité, d'accessibilité. Et puis, à un autre extrême, on a un pôle qu'on peut qualifier de désengagé, au sens de un pôle qui se caractérise par une forte prétention théorique et qui va s'incarner principalement dans le genre de l'essai, avec des auteurs, là, pour le coup, qui disposent d'un certain capital symbolique. Ça va plutôt être des universitaires, des philosophes, des écrivains, et qui vont produire pour un public plus restreint. Alors, c'est le cas d'Amsterdam, des éditions de l'Éclat, de Delga, d'une partie de la production d'Agone, sachant que certains éditeurs, Agone en est un bon exemple, vont réussir à tenir tous les bouts de ce spectre éditorial, c'est-à-dire vont aller de collections d'essais d'actualité très réactifs, avec une présentation graphique vraiment très liée au monde militant, avec des couvertures un peu... avec des couvertures de couleurs vives, avec une typographie très marquée. Et puis, à l'autre bout, on va avoir des collections d'essais théoriques qui vont là s'inscrire dans des dispositifs formels beaucoup plus classiques, évocateurs plutôt de la collection blanche chez Gallimard, avec vraiment des codes graphiques qui sont très opposés et qui sont des marqueurs intéressants de ce grand écart entre un pôle engagé, très militant, et un pôle désengagé d'écriture plutôt théorique, de réflexion, de posture réflexive, critique sur le monde. Alors, il y a un historien du livre qui s'appelle Philippe Oliveira qui a bien montré le rôle que joue l'essai dans la production éditoriale des éditeurs, que ce soit les éditeurs généralistes ou les éditeurs critiques, en montrant que c'est un genre qui est flou par définition et qui, depuis en gros la Belle Époque, présente l'avantage de brouiller les codes, c'est-à-dire d'éviter à la fois l'académisme de la production savante, qui peut être un repoussoir. Hein. Fabien parlait tout à l'heure du côté un certain anti-intellectualisme, un côté anti-académie aussi, la production savante dans sa tour d'ivoire, déconnectée du monde réel, etc. Et en même temps, d'éviter l'idéologie trop marquée de la production militante. Donc l'essai remplit une fonction de charnière entre production à visée savante et production à visée plus militante, et permet de répondre à plusieurs types de demandes et de rassembler des auteurs très disparates. Donc c'est une des modalités privilégiées d'expression du politique, à la fois chez les éditeurs généralistes et chez les éditeurs que j'ai étudiés. Alors on compte On compte parmi ces ouvrages théoriques des textes très volumineux, hein, qui peuvent être vraiment des textes ambitieux. Je prends un exemple chez Amsterdam qui a traduit, en plus c'est une traduction, Les Lumières radicales de Jonathan Israel, qui est vraiment un classique, qui fait référence, qui est un texte qui fait plus de 900 pages. Hein, c'est pas courant d'avoir des ouvrages de plus de 900 pages en traduction chez un petit éditeur. Bon, ils l'ont encore fait il n'y a pas longtemps avec un très gros ouvrage de l'historien Yves Cohen. Mais ce qui va au-delà de ces exceptions, de ces textes théoriques très, très, très volumineux pour un public quand même trié sur le volet, on va aussi avoir beaucoup de petits formats, des textes courts, peu onéreux, et c'est ça qui va constituer une des marques de fabrique de l'édition critique et qui contribue à réactiver un certain type d'écrit militant. Parce que depuis la littérature de colportage, les petits formats qu'on peut aisément mettre dans sa poche sont associés à la subversion, à la pensée contestataire. Et donc la réactivation de petits ouvrages qui sont vendus peu cher s'inscrit vraiment très clairement dans l'univers militant. Alors un bon exemple, ce sont les rééditions de classiques politiques que ces éditeurs vont beaucoup pratiquer. Avec, en constituant une sorte de mémoire collective, hein, de textes de classiques politiques oubliés ou des grands classiques qui sont comme, je pense, aux textes de Rosa Luxembourg, d'Orwell, etc. Mais aussi un éditeur comme par exemple Les Nuits Rouges, hein, qui va contribuer à faire connaître des textes un petit peu oubliés de la fin du 19e siècle, en particulier des textes anticolonialistes. Qui sont très peu connus. Donc la réédition de classiques politiques et contemporains va être importante pour ces éditeurs. Alors, c'est souvent des textes qui sont issus du coup des courants libertaires, anarchistes, hein, mais aussi du marxisme critique. Alors, on a Élisée Reclus, les textes de Bakounine, de Rosa Luxembourg, mais aussi des classiques théoriques, comme Adorno, Lukács, Kluskar. Alors, la réédition de ces classiques participe à la fois d'une logique mémorielle et pédagogique, l'idée d'une sorte d'éducation à la pensée politique. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que quand on fait une analyse des catalogues, on voit à quel point ces classiques politiques agissent comme des marqueurs intellectuels et politiques. C'est-à-dire qu'un éditeur, quand il choisit de rééditer une pensée politique un peu oubliée ou qui lui semble essentielle, il va s'inscrire dans une lignée, il va s'inscrire dans une famille politique. Et donc, c'est un geste fort d'identification. Un exemple, le premier texte qui a été édité par Agon, c'est « Les chiens de garde » de Paul Nizan, qui avait été réédité en 1969 par Maspero. Donc, c'est vraiment l'idée de s'inscrire dans la lignée de Maspero, qui est un éditeur qui est un éditeur très important, une figure intellectuelle, un modèle très fort pour la plupart de ses éditeurs. Ou je pense aussi aux rééditions de textes politiques, aux textes de Robespierre à la Fabrique, hein, avec toute une présentation aussi de Robespierre, avec l'idée de renverser le stigmate qui entoure Robespierre, en disant c'est aussi quelqu'un qui s'est opposé à la peine de mort, qui s'est opposé à l'esclavage, qui s'oppose, qui est une sorte de préscience de la pression capitaliste que l'on connaît aujourd'hui. Donc les rééditions de textes politiques sont toujours un geste fort et signifiant. Donc, prédominance, au-delà de quelques exceptions de gros textes théoriques, de textes courts, de petits formats qui vont circuler facilement, qui sont peu chers et qu'on trouve donc chez la plupart de ces éditeurs, qu'il s'agisse de rééditions de classiques, mais aussi de textes contemporains. Je pense au texte de Rancière aussi, publié à La Fabrique, qui ne dépasse pas les 128 pages, hein, qui est le format le plus habituel à La Fabrique. Dernier point sur les catalogues, sur l'analyse de la production, la place des traductions, qui est aussi un élément très très important et qui va jusqu'à représenter plus de 50% des titres publiés chez certains éditeurs. Et pas juste chez deux ou trois éditeurs. Hein. C'est vraiment il y en a certains qui ne peuvent pas se permettre de payer des traductions, qui n'ont pas les compétences linguistiques pour le faire, mais il y a un grand nombre d'éditeurs qui ont misé sur la traduction comme moyen d'accès privilégié au champ éditorial. Bon, c'est vrai que les traductions présentent beaucoup d'avantages pour, quand on est un nouvel entrant, pour accéder au champ éditorial. Ça permet de s'appuyer sur des auteurs qui ont déjà été labellisés, reconnus, avec lesquels le travail a déjà été fait à l'étranger, même si les coûts sont plus importants et si ça demande un travail, un investissement intellectuel très, très important de la part des éditeurs qui passent beaucoup de temps, soit à traduire eux-mêmes, puisqu'un grand nombre de je pense à Jérôme Vidal chez Amsterdam, mais aussi Eric Hazan, qui a publié beaucoup de titres, qui a traduit beaucoup de titres publiés sous ses couvertures, sous un pseudonyme. Donc la traduction est, de manière classique, un mode d'accès privilégié au champ éditorial, qui s'était surtout beaucoup vu dans le champ de l'édition littéraire. Hein. C'est vraiment dans les années 70-80, il y a beaucoup de petits éditeurs en France qui se sont spécialisés sur des sphères linguistiques un peu négligées par les éditeurs dominants. Ça peut être les littératures d'Europe de l'Est, de Scandinavie, de Turquie, d'Extrême-Orient comme Piquier, par exemple. Mais c'est quelque chose qui n'avait pas été constaté dans le domaine des sciences humaines, et qui est vraiment un fait inédit, qui est très intéressant et qui est lié, bien sûr, à la désaffection des éditeurs généralistes pour les traductions à partir du moment où le secteur des sciences humaines se referme après l'âge un peu fou des années 60, revient à son étiage naturel, entre guillemets, à son lectorat naturel, et où les traductions vont apparaître comme un investissement trop risqué à un moment où les tirages dégringolent. Alors, tout l'avantage des traductions pour ces petits éditeurs, c'est que ça va leur permettre de faire figurer à leur catalogue des auteurs de réputation internationale qui, de manière assez incroyable en France, sont restés non traduits pendant très longtemps. Je pense à Frédéric Jameson, par exemple, ou à Judith Butler, bon, qui aujourd'hui est bien installée, mais c'est tout un travail qui a été fait en particulier par Amsterdam. Et ça leur permet d'accumuler un capital symbolique important, puisque avoir à son catalogue des auteurs comme les deux que je viens de citer, ou Zizek, ou Mike Davis, dans une moindre mesure, est là aussi un signe de capital symbolique très, très important. Alors, Amsterdam s'est beaucoup spécialisé sur l'importation d'auteurs, des gender studies, des études postcoloniales, des études subalternes, qui étaient inédits en français. Mais il y a aussi d'autres éditeurs, comme les éditions de l'Éclat, qui ont développé une collection extrêmement pointue de philosophie analytique, avec là aussi tous les grands noms de la philosophie analytique anglo-saxonne, qui était très très peu traduit en France, qui a été en partie repris par Le Seuil. Et je pense aussi aux Prairies Ordinaires, qui ont fait un travail remarquable avec la collection Pensées croisées, de petits textes traduits. Donc voilà pour baliser un petit peu les catalogues au prisme de l'édition de sciences humaines. Deuxième caractéristique qui me semble très importante, évidemment, dans le cadre de cette présentation, c'est le caractère politique des lignes éditoriales développées, qui tranchent, là aussi, on a vraiment l'impression d'être dans des phénomènes de rupture, en tout cas des phénomènes cycliques, parce que plus qu'une rupture, c'est des retours à des phénomènes qui s'organisent sous forme de cycle. Donc, il va trancher avec la dépolitisation qu'a connue l'édition de sciences humaines depuis la fin des années 70, avec le départ de François Maspero de la structure qui porte son nom, la fin des éditions Champs Libres, la crise des éditions sociales, enfin beaucoup d'autres éléments comme ça. Donc, cette repolitisation éditoriale, elle s'inscrit dans le contexte du renouveau contestataire des années 90, avec la montée de ce qu'on a appelé les nouveaux mouvements sociaux, le courant altermondialiste. Alors le mouvement social de 1995 en France est un moment marquant de ce phénomène de repolitisation. Au niveau international, le forum social de Porto Alegre. Alors le fait est que les ouvrages de critique du capitalisme autour de l'idée que on est dans une situation de crise par rapport au système capitaliste et qu'il faut inventer des nouvelles solutions, des nouveaux modèles, se multiplient en librairie. Un moment clé aussi de cette espèce de traduction éditoriale d'un malaise, d'un renouveau critique, ça va être la publication en 1993 de La misère du monde, qui a rencontré un succès là aussi phénoménal par rapport en plus au côté très volumineux et le côté ardu de l'ouvrage. qui s'est vendue aussi à plus de 100 000 exemplaires et qui est une des premières manifestations de ce phénomène, mais il y en aura d'autres. Il y a, je pense à l'horreur économique de Viviane Forrester. Donc c'est vraiment un phénomène qui va trouver une traduction dans le champ éditorial très importante. Mais ce qui me semble vraiment central à souligner, c'est le fait que cet engagement, ce caractère politique de ces éditeurs, il est indissociable d'un engagement intellectuel. Et on ne peut pas prendre l'un sans prendre l'autre. Ce qui définit, à mon sens, l'édition critique, enfin telle que je l'ai étudiée, c'est cette double exigence, le fait que l'exigence d'une pensée politique, avec diverses nuances, dans cette pensée politique, mais surtout une exigence intellectuelle. Et il ne faut lâcher sur aucun des deux. Donc le fait d'être situé à la croisée de ces deux exigences fait qu'il ne s'agit pas d'édition militante au sens classique du terme, et il ne s'agit pas d'édition savante non plus, mais un lieu hybride entre les deux. Alors on le voit bien lorsqu'on examine le type d'ouvrages publiés, notamment les ouvrages militants scientifiques, qui ont été remis au goût du jour par Raison d'agir, Agone, La dispute, etc., qui sont assez symptomatiques de cette volonté de croiser ces deux exigences, mais aussi quand on regarde la trajectoire des éditeurs qui s'investissent dans ces structures d'édition critique. Alors, il y a un clivage générationnel qui est intéressant. D'un côté, on a des éditeurs qui avaient une vingtaine d'années dans les années 68, qui ont créé leur maison d'édition dans les années 90-2000, qui viennent de courants libertaires, anarchistes, du PSU, par exemple, aussi, de la LCR, quelques-uns du Parti communiste, et qui ont opéré une reconversion dans les années 90 du monde militant à celui de formes intellectuelles d'engagement. Qui passe par des revues en particulier, mais aussi par l'édition. Et puis une génération plus jeune, une génération qui avait plutôt la trentaine quand ils ont créé leur maison d'édition, et qui, eux, vont se caractériser par un engagement beaucoup plus diffus dans divers mouvements d'extrême gauche, mais aussi des mouvements de défense des sans-papiers, de lutte contre le Front National, des ONG, des associations comme ATTAC. Des revues, Fabien les évoquait tout à l'heure, Multitude, Vacarme, Contretemps, la revue des livres, etc. Donc les trajectoires montrent bien aussi le déplacement qui s'est opéré en termes de type d'engagement. Et la première génération que j'évoquais, la génération qui avait en gros 18-20 ans au moment de 68, qui a connu des engagements militants de type complet, total, qui représentait un engagement de type personnel très fort, ont eux aussi évolué à partir des années 90 et se sont relativement désengagés pour opérer un engagement beaucoup plus sur le mode intellectuel, tout en gardant un lien fort avec des mouvements politiques et critiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que alors cette configuration entre théorie et politique, elle n'est pas inédite hein, dans le monde éditorial. C'est pas quelque chose de nouveau qui sortirait comme ça de nulle part. Quand on regarde les maisons d'édition républicaines à la fin du 19e siècle, il y avait ce mélange entre des textes théoriques et militants. De manière plus proche, on retrouve bien sûr cet équilibre dans le catalogue de Maspero, avec le jeu des collections, avec des collections comme les Cahiers libres, qui cristallisait tous les engagements forts de l'époque, mais aussi des collections de théorie pure, hein, comme la collection Théorie, ou texte à l'appui, avec des auteurs comme Vernon, Malinowski, Wilhelm Reich, etc. Donc c'est pas une configuration inédite, mais c'est une réaffirmation très forte qui était, d'une certaine façon, qui avait pas disparu, mais qui s'était vraiment édulcorée et qui était beaucoup moins présente dans le champ éditorial. Et quand on voit la force du modèle que représente François Maspero et qu'on creuse un petit peu dans les entretiens ce que représente Maspero pour ses éditeurs, c'est toujours ça qui est mis en avant. C'est-à-dire que c'est jamais l'aspect le plus dogmatique du catalogue de Maspero, par exemple, qui va être mis en avant. Certains aspects du catalogue, certains auteurs publiés, je pense à Envers Oxa, par exemple, où ça, c'est plutôt gommé, mais ils vont mettre en avant un engagement, tenir les deux ficelles, quoi, tenir la ligne d'une grande perspicacité au niveau de ce qui est nouveau dans le domaine des sciences sociales, particulier dans le domaine de la pédagogie, hein, je pense aux livres aux enfants de Somerville, et aussi un engagement politique complet avec toutes les forces d'extrême gauche de l'époque. Donc c'est intéressant de voir à quel point Maspero est l'incarnation de cette double exigence. Alors le choix que j'ai fait du terme d'édition critique plutôt que d'édition politique pour parler de ces éditeurs reflète justement cette double exigence. Ça permet de souligner la spécificité d'un engagement de type politico-intellectuel et pas strictement politique, sachant que le caractère critique va en plus se manifester à un double niveau. Bon, au niveau politique, ça on l'a vu, au sens de la police, hein, au sens grec de la police, intervenir dans la vie de la cité, mais à un niveau aussi plus strictement professionnel. C'est-à-dire que ces éditeurs sont porteurs, comme on l'a vu au début avec le texte de Thierry Discepolo d'Agone, hein, « La trahison des éditeurs », Jérôme Vidal a aussi beaucoup publié sur le sujet, ils vont être porteurs d'une dénonciation des conditions d'exercice du métier d'éditeur à l'heure actuelle, du fait justement de la prégnance de plus en plus forte des critères commerciaux dans le monde de la culture, dans le monde des biens symboliques, de l'emprise de plus en plus forte des critères marchands, qui fait que la sphère des biens symboliques n'a plus l'autonomie dont elle pouvait se prévaloir jusqu'à présent. Donc on voit que tout se tient, cette critique qui porte là vraiment sur les conditions d'exercice du métier d'éditeur et en résonance totale avec les textes que ces éditeurs publient, qui vont être une ressource, d'une certaine façon, dans ce combat à dimension plus corporatiste, d'une certaine façon, et professionnelle, mais s'inscrivant dans une logique de défense de valeurs universelles, de débat démocratique, etc. Donc les deux niveaux sont très liés, et on voit ça aussi dans la volonté de publier des livres qui puissent être donc des véritables outils de subversion, d'émancipation pour les lecteurs, mais aussi de les produire, et ça c'est très important, c'est pas seulement de publier des outils de subversion, mais c'est de les mettre en acte, de pas être uniquement au niveau de la parole et des idées, mais d'aller jusqu'au bout du processus et de produire ces livres aussi de manière différente, selon une autre temporalité, par exemple le fait de prendre son temps, de ne pas faire des coups éditoriaux. Alors le stigmate du coup éditorial est très très fort dans ce monde-là. Dire si on veut disqualifier un concurrent, on dit hein, c'est pas quelqu'un de sérieux, il fait des coups éditoriaux. C'est donc la logique commerciale qui l'emporte sur la logique intellectuelle et politique. Donc ces éditeurs vont de manière très très forte mettre en scène, et pas seulement en scène, en acte aussi, une façon de travailler qui serait à l'opposé de celle des éditeurs mainstream, des grands éditeurs. Alors, des relations différentes avec les auteurs, qui est de l'ordre du respect, de la prise de temps, de ne pas faire trop de livres à la fois et de les faire n'importe comment. On va en faire 3 ou 4 par an et on va les faire bien, avec des gens qui sont importants pour nous, avec en plus des relations amicales le plus souvent qui se tissent avec les auteurs, mais aussi au sein même des structures d'édition. Alors il va y avoir des collectifs, hein, les éditeurs qui sont issus des courants libertaires vont souvent être des collectifs, hein, plutôt que des structures hiérarchiques, évidemment. Mais aussi, même chez les éditeurs qui fonctionnent de manière un petit peu plus classique, beaucoup vont essayer de déminer un peu les relations hiérarchiques, d'avoir une égalité de tous, égalité des salaires, égalité dans le mode de fonctionnement, bon, ce qui n'est pas sans provoquer, enfin, c'est souvent difficile à mettre en pratique, mais en tout cas, il y a tout un effort important à ce niveau-là de vraiment travailler différemment. C'est-à-dire on veut être en accord avec les textes qu'on publie, on veut montrer en acte qu'on peut faire des choses différentes, que l'édition ne devrait pas s'inscrire dans les logiques qui sont celles de l'édition dominante. Alors en faisant ça, ces éditeurs, ils expriment un ethos qui est plus artisanal que commercial. Et l'exaltation de la figure de l'artisan est très très forte, hein, l'éditeur artisan qui prend son temps, qui est à la frontière du métier et de l'art, et qui va en particulier porter une attention très forte sur les formes graphiques, sur l'objet livre. Hein. Il y a une fascination pour l'objet livre. C'est souvent des gens qui ont des formations... Enfin, il est pas rare de rencontrer des éditeurs qui ont une formation au graphisme assez poussée et qui vont investir énormément dans la qualité du papier, de la typographie, des couvertures, Et vraiment, c'est, l'aspect matériel n'est pas du tout anodin. On n'est pas uniquement dans la théorie. Ça s'incarne matériellement. Et un beau livre, et faire de beaux livres, de beaux ouvrages, est très, très important pour ces éditeurs. Donc, on voit qu'on a un ensemble très cohérent où la critique, elle est non seulement dans le contenu des livres, mais aussi dans la façon de les réaliser, avec l'idée de lier les deux, d'avoir une critique qui soit en acte et pas seulement au niveau des idées. Alors, je reviens sur... il me reste 10 minutes, là, à peu près, donc je voudrais juste...
Tu peux prendre un peu plus de temps,
je peux prendre si un peu plus. Non, mais ça va, je crois. Je voudrais revenir sur l'aspect politique. Donc, je soulignais le caractère hybride, pour moi, de cet espace éditorial qui est à la confluence de l'univers intellectuel et de l'univers militant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que... si on peut parler d'édition critique ou même politique, hein, au sens de large de politique et pas militant, il est très très clair pour ces éditeurs qu'ils ne sont pas des éditeurs militants. Et c'est même impressionnant de voir à quel point l'adjectif militant et tous les termes qui gravitent autour sont de l'ordre du repoussoir. Ces éditeurs n'ont, et ils le disent de mille façons, rien de commun avec l'édition de parti, l'édition de propagande, l'édition qui est dans une ligne. Alors pour eux, c'est vraiment quelque chose de détestable, tel que pouvaient l'illustrer, par exemple, les maisons d'édition liées au parti communiste, hein, avant-guerre et après-guerre aussi, qui sont là aussi une figure vraiment de détestation de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc c'est pour cette raison qu'ils s'autodéfinissent comme des éditeurs engagés, critiques, subversif, alors il va y avoir tout un jeu sémantique autour des qualificatifs, hein, mais jamais comme militant. Alors on voit ça, c'est intéressant, j'ai fait une petite analyse des argumentaires qui étaient utilisés, que ce soit sur les sites internet, dans les quatrièmes de couverture, toutes les variations sémantiques qui vont permettre justement d'éviter des termes connotés négativement comme celui d'idéologie ou de militantisme. Alors militantisme peut être utilisé avec des adjectifs qui vont venir d'une certaine manière le préciser de manière positive. Mais militant n'est pas quelque chose, militant au sens traditionnel du terme, n'est pas quelque chose qu'ils vont priser. Alors on voit, il y a un texte qui a été publié qui m'a beaucoup frappé à cet égard, je m'excuse de le citer à nouveau, Thierry Di Cepolo, qui intervient beaucoup sur ces sujets-là. Donc le responsable des éditions Agone, qui, comme vous le savez peut-être, a publié une partie des textes de Jean-Marc Rouillant, et qui Jean-Marc Rouillant, qui d'ailleurs est salarié, enfin est lié, travaille en partie pour les éditions Agone. Donc il y a un texte qui a été publié qui s'appelait « Pourquoi nous publions Jean-Marc Rouillant ?». Et on voit que tout ce texte, il y a un texte d'auto-justification, de clarification, l'argument central, c'est On publie Jean-Marc Rouillant parce que c'est quelqu'un de très important, c'est le dernier représentant de la lutte armée en France, mais parce que c'est un théoricien de la lutte armée. C'est quelqu'un d'important parce que, au-delà du caractère historique, de témoin très important, c'est un théoricien de la lutte armée. Et nous, on n'est pas des producteurs de propagande. Et là, je cite, on n'est pas des producteurs de propagande. Il y a une division du travail entre les mouvements sociaux et la production d'outils théoriques. Nous, on est au niveau de la production d'outils théoriques. Alors après, les mouvements sociaux, militants, vont s'en saisir. Ils vont faire ce qu'ils veulent de ces outils qu'on leur donne. Mais il y a une division du travail, qui est claire. Et ça, de manière vraiment là, non euphémisée, très, très clarifiée, ça renvoie à quelque chose de plus diffus, de plus confus, dans les argumentaires de ces éditeurs, qui est cette valorisation, qui est très dans l'air du temps, hein, de l'ouverture, du dépassement des clivages, du refus des étiquettes, du refus des classements. Alors le refus des classements, c'est quelque chose qui est très symptomatique des intellectuels en général. C'est-à-dire, les intellectuels détestent être mis dans une boîte, qu'on leur dise « vous êtes ça ». Il y a toujours cette idée qu'on est au-dessus, hein, qu'on va dépasser les étiquettes et les classements. Et tout ce travail de mise à distance, de refus donc des dogmatismes, des étiquettes, etc., me semble participer de cette mise à distance très claire, hein, du militantisme. Et on le voit aussi, j'ai fait des entretiens avec des éditeurs qui comme un des responsables de Sileps, hein, qui est vraiment quelqu'un qui a été extrêmement engagé toute sa jeunesse, qui a fait partie de tout un nombre de mouvements dans lesquels il s'est totalement investi, et qui aujourd'hui tient ce type de discours aussi quand il parle de Sileps, qui est par ailleurs une maison très 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 ancrée à gauche et très avec une identité politique pas du tout reniée par ailleurs. C'est un jeu subtil entre ne pas renier son ancrage politique, mais en même temps ne pas se reconnaître dans le militantisme traditionnel. Donc ce rapport distancié à l'engagement militant fait que ces éditeurs vont plutôt nouer des contacts ad hoc avec des réseaux associatifs, des syndicats, des groupes de réflexion, en fonction de leur sensibilité politique et des thématiques qu'ils explorent. Alors c'est le cas de Sileps, justement, dont un grand nombre de collections sont co-animées par des groupes de réflexion ou des syndicats comme le FSU ou la Fondation Copernic. Hein. La Fondation Copernic a une collection au sein de Sileps qui s'appelle « Les Notes ». Mais aussi par des revues comme la revue Espace Marx. On voit aussi ça chez les éditions Amsterdam, qui sont associées à deux revues issues des nouvelles...
C'est pas chez Sileps, c'est Espace Marx. Actuel Marx.
Espace Marx. C'est Actuel Marx.
Ah oui, non. Okay. Non,
c'est Espace Marx, c'est pas Actuel Marx. Ouais, oui,
absolument.
Donc chez Amsterdam, là, on a la mouvance avec... Enfin, le lien avec des nouvelles mouvances intellectuelles de gauche, c'est Vacarme, qui est proche du mouvement ACT UP, Multitude, inspiré par Tony Negri, qui était auparavant porté par Exil, la maison d'édition Exil, et qui a été récupéré par Amsterdam, et puis qui, bien sûr, a lancé la RDL, la revue des livres, sur le modèle de la New York Review of Books. Donc, ce qui me semble intéressant à voir aussi au niveau des trajectoires, hein, dans une perspective sociologique, c'est que si l'édition critique constitue un prolongement, un substitut possible à l'investissement militant, c'est justement parce qu'elle permet d'investir des formes de radicalité qui sont fortement intellectualisées et qui sont d'autant plus valorisantes. Et ça, c'est vraiment spécifique à la France, que les deux facettes, radicalité politique et radicalité intellectuelle, sont traditionnellement liées dans ce pays. Il y a toute une histoire très longue d'engagement intellectuel, d'engagement politique, depuis en gros l'affaire Dreyfus, mais on pourrait remonter plus loin. Et que donc, ça s'inscrit dans une lignée qui est quand même très prestigieuse. S'affirmer éditeur critique dans le domaine des sciences humaines est aujourd'hui un des moyens les plus légitimes de combiner les gratifications symboliques liées aux deux univers, de faire de la politique, mais autrement, un petit peu à l'image de ce que disent les militants des mouvements alter. Si on fait de la politique, mais autrement, à côté, en dehors du militantisme traditionnel qui a été très fortement démonétisé. On le constate encore de manière vraiment frappante. Enfin, moi, je l'ai constaté dans les entretiens avec ces éditeurs. Alors, dernier point que je voudrais aborder pour conclure. Qu'est-ce que l'existence de ces maisons d'édition révèle sur le fonctionnement du champ éditorial aujourd'hui? Si on se met dans une perspective un peu plus éloignée, c'est le symptôme de quoi? Qu'est-ce que ça nous dit du fonctionnement d'un espace de médiation important qui est celui de l'édition? Est-ce qu'elles sont le signe d'un renouvellement, d'une diversité accrue ou maintenue, d'ouverture, ou au contraire d'une marginalisation croissante, avec vraiment une opposition forte entre le centre et la périphérie, avec des acteurs marginaux auxquels on laisse les miettes à se partager en marge du vrai jeu, du jeu sérieux qui serait celui celui dans lequel sont engagés des éditeurs comme Gallimard, Actes Sud, Flammarion, et Le Seuil, etc. Alors, ce qui me semble clair, c'est l'idée que j'ai défendue dans le livre, c'est que ces maisons d'édition jouent un rôle qui est beaucoup plus important que leur faible poids économique ne pourrait le laisser entendre, et qui est même disproportionné. Bon, ça tient à ce que je disais au début, à le fait que quand on est dans l'univers des productions symboliques, ce sont des biens doubles et on ne peut pas les considérer sous l'angle économique exclusivement. On ne peut pas faire l'impasse sur l'économie, mais la composante symbolique est extrêmement importante et permet d'expliquer un certain nombre de stratégies qui seraient totalement inexplicables au-delà de, enfin, si on ne prenait pas en compte cette double dimension. D'abord parce qu'elles exercent des effets donc d'ordre symbolique qui sont très importants dans un champ comme celui de l'édition, même à un moment de concentration et de pratiques commerciales de plus en plus fortes, en rappelant des valeurs clés comme l'indépendance, la diversité, le désintéressement, la croyance dans le fait que les livres ne sont pas des biens tout à fait comme les autres et qu'il faut maintenir cette singularité. Et toutes ces valeurs sont des valeurs qui sont importantes et nécessaires au bon fonctionnement du champ éditorial dans son ensemble et qui vont d'ailleurs être portées par des éditeurs qui ne sont pas du tout dans ces petites maisons d'édition, qui vont reprendre ce type de discours. Donc ça participe, on peut utiliser le terme de croyance, hein, une sorte de croyance collective qui fait tenir tout le système. Alors on est aussi un petit, là je me place aussi un petit peu dans le schéma weberien du rôle des hérétiques et par rapport à l'Église consacrée, c'est-à-dire que ces petits éditeurs, c'est un petit peu les hérétiques qui vont rappeler les valeurs, la pureté du dogme. Il faut pas trop s'écarter, il faut revenir aux principes fondateurs. Donc le schéma d'analyse weberien est vraiment très intéressant pour comprendre ce qui se joue dans ces univers. Mais je voudrais aussi argumenter que leur rôle n'est pas uniquement d'ordre symbolique. Il va au-delà, il a des effets réels. On le voit bien avec la multiplication des collections se définissant comme critiques, comme je l'ai souligné, et qui renoue avec l'idée de contestation, de débat d'idées dans l'espace public, même si on constate aussi que ces collections sont rapidement abandonnées par les éditeurs généralistes si elles ne rencontrent pas le succès escompté ou si les ventes sont décevantes, sachant que ces éditeurs vont quand même plutôt avoir tendance à se porter vers les best-sellers du secteur de manière très très claire. Autant la fonction découverte sur l'édition littéraire est généralement assumée par les grands éditeurs généralistes, autant sur le domaine des sciences humaines, c'est quand même, on peut en débattre, c'est beaucoup moins clair. Donc là, on rejoint un problème classique, classique dans les univers de production artistique et culturelle, qui est celui des acteurs à la marge, qui assurent en quelque sorte une fonction de laboratoire externalisé de création pour les plus gros, tout en ayant eux-mêmes du mal à accéder au marché grand public. Bon, ça, c'est des logiques qu'on retrouve dans le domaine de la musique, très, très clairement dans le domaine de la musique, aussi dans celui de l'art et du cinéma. Donc là, on a une division, on a plutôt une division du travail et une continuité entre éditeurs généralistes et petits éditeurs à la marge, plutôt qu'une rupture nette entre les deux univers. Ces maisons d'édition marginales remplissent donc une fonction qui est centrale au fonctionnement des espaces culturels et artistiques en assurant leur renouvellement, à savoir que ce sont des secteurs qui ont sans cesse besoin de nouveautés pour continuer à exister, à travailler, et ces petits acteurs situés à la marge vont permettre ce renouvellement qui est vraiment essentiel au maintien de l'activité éditoriale, donc une fonction vraiment centrale. Mais l'inscription dans le temps de ces structures, qui cherchent à développer des manières alternatives d'être éditeurs et qui sont extrêmement... Bon, j'ai pas du tout abordé la dimension économique, hein, des conditions de possibilité de cette édition critique. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça, sur le rôle en particulier de la puissance publique, d'instances comme le Centre national du livre, pour maintenir cette diversité éditoriale. Donc là, je l'ai volontairement mis de côté parce que c'était pas au centre de la présentation, mais c'est des positions très très précaires et c'est des conditions de travail qui confinent à l'ascétisme, hein, avec vraiment certains qui jettent l'éponge au bout d'une dizaine d'années ou qui se font absorber par un plus gros parce que c'est plus tenable, c'est pas tenable sur le long terme ou très difficilement. Donc cette inscription dans le temps de ces petites structures est extrêmement problématique, avec l'enjeu central de la professionnalisation. La question fondamentale, d'une certaine façon, c'est comment est-ce qu'on peut être à la marge sans être marginalisé, sans être absorbé ou récupéré d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que la professionnalisation est un enjeu important, avec la possibilité de grandir, de se développer, qu'un certain nombre de ces éditeurs recherchent, dans l'idée d'occuper une position plus visible, de mieux diffuser ses livres, mais aussi de se donner les moyens d'une critique agissant sur le social et qui ne reste pas à la marge destinée à un lectorat conquis d'avance, d'une certaine façon, puisque les gens qui vont lire ces ouvrages sont des gens qui sont qui connaissent, qui sont en général engagés politiquement, etc. Mais le prix à payer pour ce développement et pour cette professionnalisation est bien sûr celui d'une normalisation des pratiques. Et ça, quelqu'un comme Éric Hazan à La Fabrique est très très sensible à cette dimension, et il dit le seul moyen de rester libre et d'avoir une ligne politique que je puisse défendre, c'est de rester petit. Se développer, c'est la fin. Se développer, c'est rentrer dans un cycle infernal. Il faut emprunter auprès des banques, il faut payer des salariés, on est pris dans une logique folle et on ne maîtrise plus sa ligne éditoriale. Le seul moyen d'être libre, c'est d'être petit. Mais il y a d'autres éditeurs qui pensent, comme Hagon, que le seul moyen d'être crédible, c'est de montrer justement qu'on peut avoir une production éditoriale exigeante tout en étant professionnel et en montrant qu'on peut en vivre. C'est-à-dire que là, pour les animateurs d'Hagon, le repoussoir absolu, ça va être l'amateurisme. Ne pas vivre, ne pas gagner sa vie avec ce qu'on produit, ça veut dire que ça n'est pas viable et donc ça ne sert à rien. Ce qu'on fait est absurde. C'est d'une certaine façon ce qui va montrer la validité du projet. Alors là, c'est intéressant, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est intéressant parce que les entretiens que j'ai faits en Angleterre auprès d'éditeurs engagés, politiquement engagés comme Verso ou plutôt Books en Angleterre, sont plutôt sur cette logique-là. C'est-à-dire que le seul moyen d'être indépendant, c'est d'être indépendant par le marché, en vendant correct, en ayant des ventes correctes qui nous permettent de vivre. Et c'est ça la condition de l'indépendance. Alors que pour des éditeurs comme La Fabrique et beaucoup d'autres, le marché, s'inscrire dans une logique de marché est plutôt suspect et entraîne une fuite en avant qui va empêcher. Donc là, on a vraiment une tension fondamentale sur comment s'inscrire dans le marché. Comment être un éditeur critique, s'inscrire ou pas dans le marché capitaliste, jouer le jeu ou pas, être dans des positions de type amateur, dilettante même pour certains, ou au contraire, être le plus professionnel possible, être le plus sérieux possible. Alors, cette tension, elle est vraiment symptomatique des structures anti-institutionnelles, hein, ce qu'on peut appeler les structures anti-institutionnelles, qui sont prises entre des mots totalement contradictoires, enfin des obligations qui sont vraiment contradictoires. Soit le risque d'épuisement, du fait de positions, comme je le disais, très très difficiles à tenir, ne serait-ce que sur le plan matériel, et le risque de la normalisation, on pourrait même dire de la routinisation du charisme, hein, pour reprendre l'expression de Weber, qui leur fait perdre leur identité première et renier les idéaux qui ont présidé à la création de ces structures. Donc vraiment une contradiction que l'on retrouve aussi très clairement dans le monde de l'art, dans le monde de la musique, avec les petits labels musicaux, enfin, on peut peut-être en discuter. Voilà, donc je vais m'arrêter ici.
Merci beaucoup, Sophie. Alors il est un petit peu plus de 11h, on a une heure pour discuter avec Sophie. La parole est à Assal, Christophe.
Puisqu'on parlait des labels musicaux à l'instant, moi j'ai une remarque qui est un peu une question qui paraît être intéressante par rapport à ce que tu viens de nous proposer. J'aimerais savoir, parce que justement dans le milieu de la musique, c'est tout à fait intéressant, c'est lié à l'idée de ce que tu as rappelé, que les éditeurs indépendants. Alors, moi, je n'ai pas trop analysé la partie critique, quoi. Je vais rester sur le fait que ce soit des éditeurs indépendants, mais certains éditeurs phonographiques indépendants sont connus pour être à la fois innovateurs dans le renouvellement des genres et des codes esthétiques, etc., mais aussi le renouvellement des modèles économiques et des choses comme ça. Et donc, justement, c'est lié à ce que tu viens de dire à l'instant, là, sur les... est-ce qu'on s'inscrit ou pas dans le marché ? Moi, j'ai rencontré des éditeurs indépendants très intéressants, qui pourtant étaient très liés, par exemple, avec des groupes publicitaires pour faire de la synchronisation, qui étaient liés avec des chaînes de fabrication pour construire des, enfin, du merchandising, etc., et qui se revendiquaient justement de l'indépendance et de discours dont tu nous as très bien parlé, en disant bah, justement c'est le seul moyen d'être indépendant. Le seul moyen justement de pouvoir continuer à avoir, à maintenir la logique éditoriale et avoir la maîtrise de ce qu'on produit, etc., c'est justement d'avoir une indépendance au niveau pécuniaire, au niveau des bilans, et donc quitte à aller voir directement, à faire certains coups, comme tu dis. Voilà, et donc je ne sais pas s'il y a des choses de ce type-là. Aussi, qui paraissent aussi contradictoires, que des gens indépendants qui défendent tout un discours sur l'indépendance et qui s'acoquinent avec certains groupes publicitaires, par exemple, ça me paraît assez étrange. Mais néanmoins, pour eux, ça rentre dans cette idée que voilà, on innove aussi sur les modèles économiques et pas que sur la question du renouvellement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se retrouve de cette manière-là.
C'est super intéressant parce que le discours sur ça se retrouve, mais différemment. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de discours sur le renouvellement des modèles économiques. Ou alors, il sera à l'opposé, c'est-à-dire ça sera plutôt des modèles autogestionnaires, des collectifs. Mais si c'est pour s'inscrire dans des logiques de grands groupes, là, ça va plutôt être assumé dans le sens de « je ne peux plus faire mon travail éditorial parce que je suis trop accaparée par les questions de gestion, par exemple. » Et donc, la liberté pour moi, ça, c'est les discours que vont tenir les éditeurs qui ont été absorbés par un plus gros, par exemple le responsable des éditions Climat, qui a fini par être absorbé par Flammarion. Il tenait ce genre de discours et textuel qui est passé là aussi. Je ne sais plus si c'est chez Actes Sud. Oui, je crois que c'est chez Actes Sud qui a pris 60% du capital. C'est aussi l'idée qu'au bout d'un moment, c'est épuisant quoi, de se battre contre, de buter sur ce... Parce que c'est l'édition, c'est quand même des univers où il n'y a pas énormément d'argent à faire, hein, sauf exception. Les marges sont très faibles, donc l'indépendance prend tout de suite une dimension matérielle très âpre. Et donc c'est vrai que, bon, je pense aux entretiens que j'ai fait avec Marianne Théry, il y avait toujours cette exigence très très forte de dire « moi je suis vraiment indépendant, je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent ». Si je veux rester indépendante, il faut que j'ai les moyens. Et donc, je vais. Alors, c'est pour ça que je pense à Textuel. Je vais faire des coéditions avec des. Enfin, elle est issue du monde de la publicité, donc elle a fait pas mal de coéditions avec des grands groupes de communication, des choses comme ça, qui étaient vécues comme un moyen de pouvoir faire à côté une collection intéressante, tu vois, la Discord.
De garder un secteur autonome.
Voilà, de garder un secteur autonome au sein d'un univers. Mais par contre, il n'y aurait pas ce discours de renouvellement des modèles économiques, tu vois, ça ne serait vraiment pas présenté comme ça. Ce serait plus une sorte d'acceptation des lois d'airain, tu vois, du capitalisme qui fait que tu ne peux pas en sortir autrement.
C'est moi qui dis que c'est.
Ah, mais je trouvais ça intéressant.
Eux, ce qu'ils disent, si tu veux, c'est on a toujours fait ça, tu vois, on a toujours essayé de produire avec des bouts de ficelle qu'on avait un peu partout et finalement aller chercher des partenariats ici ou là, ça en fait partie. Mm-hmm. Et sinon, j'avais une deuxième question, mais alors là, qui est plus pratique. Tu nous as dit que dans une période de crise dans l'édition, la traduction apparaissait comme un secteur plus risqué, dans lequel ne s'engouffraient plus, ou peut-être moins rentable, dans lequel ne s'engouffraient plus des éditeurs. Major, je ne sais pas si on dit ça dans l'édition papier, mais pourquoi je n'avais pas compris ça.
Alors, il y a eu. Oui, il y a eu. C'est vraiment. C'est à double niveau, mais le niveau le plus important, c'est le niveau économique. Hein, c'est que les traductions, ça coûte cher. Enfin,
oui,
tous
c'est
les.
Moins risqué,
si, en sciences humaines, c'est.
Si tu traduis,
oui, mais en même temps, il y a toujours cette idée que les
autres.
Oui, c'est ça, c'est confidentiel. Hein, comme, tu peux avoir un impact médiatique important, on va beaucoup en parler, comme Butler, il y a des articles partout, elle est très connue. Quand tu regardes les ventes, tu vois, c'est 800 exemplaires. C'est toujours plus risqué parce que sur leurs frais fixes, hein, les éditeurs, ils rajoutent les frais de la traduction. Et c'est en fait, paradoxalement, c'est pour ça que les petits éditeurs ont eu un avantage par rapport aux gros. C'est-à-dire que les petits éditeurs, souvent, ils avaient les ressources linguistiques. Hein. et la volonté de passer leur nuit à traduire Butler, tu vois, ou à faire un travail absolument délirant de traduction sur des auteurs super difficiles en plus. Ou bien ils avaient les contacts dans le monde militant et universitaire de gens qui étaient payés par ailleurs et qui acceptaient gracieusement de leur faire une traduction parce que pour eux c'était valorisant d'être le traducteur de Jameson, tu vois, en philo ou de choses comme ça. Donc ils avaient des ressources informelles qui leur permettaient de court-circuiter d'une certaine façon ce poids économique plus lourd des traductions. Bon, il y a aussi le rôle du CNL, hein, le Centre National du Livre, qui joue un rôle très très important sur les traductions. Pas toujours, hein, il y a certains gros ouvrages. Il me semble que l'invention, que les Lumières radicales chez Amsterdam, il a même pas eu de, je crois qu'il a pas eu de subvention.
Il me semble que si.
Alors il y a deux titres. Il y a les Lumières radicales et il y a l'autre de Hobsbawm, l'ouvrage de Hobsbawm sur l'invention de la tradition. Et il y en a un des deux qui a pas eu de subvention. Il m'avait expliqué, sachant, enfin je sais plus, il y avait un, enfin, donc ils ont très souvent des subventions quand même. La collection dont je parlais là de philosophie analytique, hein, 80% des titres ont été subventionnés par le centre, enfin la traduction a été subventionnée par le Centre National du Livre. Mais même avec ça, ça reste lourd financièrement parce que l'éditeur il doit avancer, hein, le paiement de la traduction, il est remboursé après par le Centre National du Livre. Et puis passer par le Centre National du Livre aussi, ça implique bizarrement, enfin pas bizarrement, mais ça peut être un frein aussi parce que pour le CNL, il faut que ça soit un traducteur professionnel. Donc avec des feuilles de paye, un tarif minimum au feuillet traduit, alors que souvent ces éditeurs sont dans la débrouille. Ouais, Nicolas pourrait nous en parler. Enfin, bon, c'est pas rémunéré, ou alors c'est une sorte d'échange de bons procédés. C'est un étudiant en traduction qui fait ses premières armes sur un titre et puis qui va être vérifié, contrôlé par l'éditeur et il le paye que la moitié ou le tiers d'un tarif normal. Enfin, t'as plein de combines comme ça. Qui leur permet en fait de faire un travail vraiment, qui leur a permis de faire un travail remarquable au niveau des traductions, qui était, alors il y a tout un discours que j'ai analysé des types François Gèze à la découverte ou Michel Prigent au PUF, il y a un discours mais d'un défaitisme incroyable sur les traductions, mais vraiment dans le domaine des sciences humaines, c'est-à-dire de toute façon les gens ils lisent en anglais maintenant, les universitaires ils lisent en anglais directement, donc déjà en plus l'appauvrissement énorme, tu vois, où t'as plus que l'anglais qui est considéré comme la seule langue digne d'être traduite, donc cet argument en anglais, les étudiants n'achètent plus de livres, et les traductions ça intéresse personne, enfin il y a des traces de ça absolument partout, hein, des entretiens, des articles, avec une espèce de prophétie autoréalisatrice, tu vois, aussi, où tu dis, bon, de toute façon, c'est un peu comme les Américains qui ne voient pas de films sous-titrés ou qui ne traduisent pas de bouquins parce que le public n'aime pas, où tu es vraiment dans l'ordre de la prophétie autoréalisatrice, où rien ne va être mis en œuvre pour casser ce cercle. Et les petits éditeurs, là, ont vraiment saisi un truc très, 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 très fort et très important. À savoir si c'est économiquement tenable, je ne sais pas par contre. Sur le long terme, il faut voir si tu peux investir comme ça pendant 10, 15 ans, des trucs très ambitieux au niveau de la traduction, avec quand même des ventes qui restent sans doute quand même. C'est vraiment des ventes de fonds. Est-ce que tu. Il faut avoir les reins solides aussi quand même pour faire ça financièrement.
Traduire un bouquin de 900 pages, ça doit coûter 25 ou 30 000 euros.
Ouais.
Et sans pouvoir compter sur la notoriété, par exemple, qu'il y a pu avoir le livre à l'étranger. C'est ça, surtout parce que dans la musique, justement, enfin, j'essaie de voir un lien, si tu veux, mais le fait de faire des enregistrements, des covers, etc., c'est quand même quelque chose qui sur lequel tu peux tabler, quoi. Et je ne sais pas si c'est exactement...
C'est ça, la configuration de l'industrie n'est quand même pas la même, c'est-à-dire que...
Il y en a quelques, il y en a, ça arrive parfois. Il y a ce titre de Dagon un peu étrange, enfin qui a eu une trajectoire étrange, qui est le Zine, Howard Zine, sur. Ah non, avant la BD, ils ont traduit l'histoire sociale des États-Unis, hein, c'est ça, qui a un gros truc aussi, l'histoire sociale des États-Unis, qui avait eu un succès monumental dans le monde entier, mais qui n'était pas traduit en français. Bon là, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu d'aide. Pour traduire ce livre qui fait près de 800 pages, je crois, qui est un gros bouquin. Mais ils en ont fait une édition plus courte après. Mais le premier, la version intégrale est très importante. Et là, ils en ont vendu plus de 10 000 exemplaires. Mais il y a eu un espèce de bouche à oreille sur ce bouquin qui est tombé au bon moment, beaucoup de critiques. Mais c'est pas toujours le cas quand même.
Et sur la traduction, juste pour préciser deux, trois choses, sur la traduction, on voit bien, par exemple, aux prairies ordinaires, je trouve que c'est très... ça se voit quand même beaucoup quand on compare les éditions originales et les formes de traduction. Il y a des choix qui sont faits. Sur Williams, par exemple, toute la partie sur le matérialisme culturel, quand on compare la version française et la version originale, on voit bien qu'il y a toute une partie, notamment toute la partie où il discute des travaux de Goldman, qui aurait pu intéresser le public français, justement, qui a été complètement zappé. Sur Jameson aussi. Enfin, on voit bien qu'il y a justement que la traduction, il y a des difficultés aussi à prendre en charge la traduction et qu'on s'arrange d'un certain nombre de choses. Et effectivement, ils traduisent beaucoup de l'anglais, y compris des auteurs qui sont d'origine, qui sont ni américains, ni britanniques, voilà. Mais c'est aussi lié au fait que la production critique, elle est portée par des universitaires et des universitaires qui, pour beaucoup, travaillent aux États-Unis quand même, donc écrivent en anglais.
Mais tu as aussi, le cas des éditions de l'Éclat m'ont intéressé pour ça, parce que c'était vraiment le contre-exemple, là, quand tu regardes les langues sources, où là, on était vraiment plus sur une logique de type production restreinte, où ils ont fait un travail incroyable de traduction de l'italien. Il y a beaucoup de penseurs critiques en Italie aussi, qui sont très peu connus en France. C'est un secteur éditorial vraiment dynamique, donc des gens comme Colli, les noms m'échappent là, mais un des précurseurs de l'idée de multitude avant Negri. Il a vraiment fait un travail de défrichage très très intéressant sur des langues beaucoup moins, tu vois, espagnol, allemand. Bon, allemand, c'est très associé à la philosophie, donc c'est un peu classique, mais italien, allemand, espagnol. Bon, l'Éclat fait aussi beaucoup de langues rares, comme des textes sur la cabale, tu vois, mais aussi des textes en catalan. Enfin, là, tu as vraiment une logique très différente par rapport au catalogue d'Amsterdam, par exemple, ou des prairies ordinaires, où, à part un ou deux titres, c'est que de l'anglais. Tu as un titre d'un auteur sud-américain, peut-être un italien, je crois, sur la gauche italienne, et puis voilà.
Je pensais, pendant que vous parliez, aux éditions du Diable Vauvert. Je ne sais pas si elle faisait partie de...
Non, pas du tout, parce que c'est vraiment essentiellement de la littérature.
Ouais. Et c'est les mêmes logiques, parce que vous avez un problème de cohérence du catalogue au final. C'est que pour rester indépendant, cet éditeur va publier des bouquins de science-fiction de Heyerdahl, qui est très grand public. Ils sont trois.
Hein. Ouais. Il y en a un qui... C'est Mazori, c'est Marion Mazori.
Marion Mazori qui avait fait un certain succès dans les années 90 avec la collection Nouvelle Génération chez Flammarion. Ouais. Elle a publié Des Pentes...
Ravalec, là.
Et elle a son associé qui passe ses nuits à traduire des livres d'auteurs américains alternatifs, pas du tout connus en France. Et par ailleurs, ils ont des auteurs un peu subversifs, on va dire, dont ils disent qu'ils sont fiers, mais qui... Et au final, le catalogue n'est pas du tout cohérent. Enfin,
Oui, c'est vrai qu'il y a un brouillage.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de ligne éditoriale. J'avais une question, par contre. Vous avez parlé, vous intéressez à l'édition critique indépendante, mais finalement, c'est des éditeurs de gauche.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe avec la pensée critique de droite et d'extrême droite? Est-ce qu'il y a un marché éditorial? Comment ça fonctionne?
Ah, ça, c'est une question... mais c'est une question qui vient très naturellement, à chaque fois, très naturellement, mais qui est une question que je me suis beaucoup posée, qui m'a posé beaucoup de problèmes. Avec effectivement cette adéquation entre pensée critique et pensée de gauche d'une certaine façon.
Est-ce que s'il n'y a pas de marché éditorial de la pensée critique de droite et d'extrême droite en France, c'est intéressant?
J'ai plusieurs éléments de réponse sur ça. Je vais essayer d'être simple. La raison pour laquelle il y a toute une mouvance d'éditeurs d'extrême droite, ça c'est clair, ça existe, on en connaît certains, mais pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui existe, qui est beaucoup moins visible. Et la raison pour laquelle je ne pouvais pas les prendre en compte, c'est que c'est pas les mêmes logiques, c'est pas le même circuit de légitimation et de consécration que ces éditeurs de gauche, qui sont vraiment dans le continuum du champ éditorial, si on part de Gallimard, Le Seuil, on peut aller jusqu'à Nautilus, l'échappée, l'insomniaque, enfin des éditeurs libertaires très 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 marginaux. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a une circulation à la fois des gens entre ces structures. Il y a des gens qui commencent, qui lancent, enfin l'éditeur des prairies, la personne qui a fondé les prairies ordinaires, elle est aujourd'hui à la découverte. celui qui était à la découverte est passé au seuil. Enfin, il y a un jeu comme ça de déplacement des animateurs de ces structures. Donc, ça participe vraiment d'un même espace. Il y a aussi, au niveau des auteurs, on voit que ça circule. Gigek, il a été publié chez Nautilus, maintenant il est publié chez Flammarion. Ça ne serait pas du tout le cas si je prenais les éditeurs d'extrême droite, où là, je serais vraiment sur d'autres auteurs.
C'est l'inverse, justement, parce que chez Grasset, par exemple, vous avez des auteurs de Grasset. Bon, moi, je parle des éditeurs littéraires. Mais chez Grasset, vous avez des gens aussi qui sont en Diable Vauvert. Enfin, j'ai mis des pans
oui, oui.
Chez les alternatifs.
Bien sûr.
Et chez les installés.
Il y a cette fonction de découverte et de remontée de la périphérie Grasset, vers le centre en littérature.
Complètement conservateurs. Et,
oui, ils ont cette.
Qui sont du coup historiquement.
Alors peut-être, c'était déjà tellement énorme que j'ai pas exploré ce côté-là. Mais ce qui était clair, c'est qu'il y avait une rupture très nette entre. Si on prenait le champ des sciences humaines et des essais, les éditeurs d'extrême droite, ils étaient complètement. Ils n'existaient pas sur la carte. Alors je pense aussi que c'est des logiques. C'est quand même souvent des éditeurs qui relèvent de la loi Guesso. Enfin, qui sont dans une marginalité là pour le coup, qui flirtent avec l'antisémitisme. Enfin, il y en a souvent qui sont dans une espèce de semi-clandestinité, hein, qui sont ils peuvent pas non plus s'inscrire totalement dans ce champ éditorial. Alors, il y a peut-être des exceptions, mais c'est vraiment, hein, ça marche beaucoup plus par abonnement. Hein, c'est le peu que j'ai regardé, en regardant surtout historiquement, parce qu'il y a beaucoup d'exemples historiques. Puis il y a eu des mémoires d'histoire du livre sur la mouvance de l'édition d'extrême droite. Donc j'ai regardé ce qui existait. C'est des logiques par abonnement, beaucoup par Internet. On ne les voit pas en librairie. Et moi, les libraires, c'était quand même mon espace d'exposition des livres. C'est les libraires. Hein. Un des critères que j'avais retenu, c'est le fait que ces livres ils soient présents en librairie. Dans une bonne librairie généraliste, n'importe où dans Paris ou dans une grande ville de province, ils y sont, ces éditeurs. Vous pouvez les commander très facilement. Donc voilà, c'est ça. Mais je trouve que ça pose une question très intéressante, hein, sur laquelle j'ai des éléments de réponse, mais je n'ai pas une réponse tranchée, qui est qu'il y aurait une sorte d'adéquation naturelle entre une pensée critique, politique, hein, et l'édition de gauche, sachant que si on regarde historiquement, il y a quelques contre-exemples quand même chez les auteurs catholiques comme Mauriac... Blois, enfin, il y a une pensée aussi critique de droite, hein, qui a en tout cas connu des heures importantes en France, hein, avant. Donc là, bon, voilà, je n'ai pas encore creusé cet aspect-là.
Et quelque chose de qui est très en lien avec ça, que tu as cité à l'instant, c'est le rapport aux technologies numériques et aux médias numériques. C'est-à-dire que la pensée d'extrême droite, que je qualifierais pas de critique, moi, pour un certain nombre de raisons,
oui, non,
mais...
Non.
effectivement, a très tôt, finalement, c'est très tôt approprié les nouveaux réseaux technologiques. Et du coup, il y a tout un continent noir de la pensée d'extrême droite qui a beaucoup investi les nouvelles technologies, qui a beaucoup investi Internet. La pensée critique telle que tu l'as définie aussi également. Et justement, c'est peut-être un point...
pas tant que ça, moi.
Un point... Ah, il y a quand même pas mal de trucs... Alors, pas forcément lié aux maisons d'édition, mais ouais. Il y a quand même des revues, il y a quand même des blogs, il y a quand même un tas de trucs. Et comment se fait justement l'articulation entre les éditeurs critiques dont tu as parlé et effectivement toute cette production critique qui est quand même très, très importante en ligne.
Alors moi, c'est
est-ce qu'ils voient ça comme des concurrents? Est-ce qu'eux-mêmes... envisagent des versionnages numériques, des choses qu'ils produisent. Comment est-ce qu'ils font le lien avec ça?
Zone qui publie gratuitement.
Oui, qui met en ligne. Alors c'est la grande idée de Zone, hein, au départ. Alors moi, une des grandes, grandes surprises de ce travail, en tout cas vraiment sur la sphère éditoriale, c'est l'aspect majoritairement technophobe de ces éditeurs. Mais à un point... c'est surtout la mouvance issue du situationnisme de Debord, mais tu le retrouves aussi chez des éditeurs qui sont juste intellectuellement un peu liés à ça, mais pas totalement. C'est des gens qui sont très attachés à la culture classique du livre, à l'écrit, à l'objet livre, et ça leur fait beaucoup de mal. Alors certains arrivent à le penser comme Michel Valenzi de l'Éclat, c'est lui qui a inventé le Liber, hein, donc c'est un beau contre-exemple. Donc de mettre le Liber, c'était au début des années 2000 l'idée de mettre en ligne gratuitement tous ces livres. Ils étaient en ligne gratuitement. avec cette idée que le fait de voir des textes, hein, de se les approprier en ligne, n'était pas du tout préjudiciable aux ventes matérielles, bien au contraire. Et c'est avéré tout à fait vrai. Il a jamais souffert de fait de mettre en ligne ses textes en accès direct. Il avait même calculé un ratio, je crois, de l'ordre de 1 à 3, enfin, je ne sais plus exactement. Et Zone renforce cette idée-là. Donc, il y a des exceptions. C'est beaucoup, et puis, de plus en plus, ils sont obligés de mettre, au bout d'un certain temps, Agon le fait, Le Croquant le fait, de mettre leurs textes, ou les revues aussi, hein, les revues qu'ils éditent, au bout d'un an ou de 8 mois, ils les mettent en ligne. Ils laissent le temps en librairie pour qu'elles soient vendues et après ils les mettent en ligne. Mais moi, ça m'a beaucoup frappé. Je pensais que le numérique serait vécu comme un espace extrêmement en phase avec ce qu'ils voulaient faire, cette idée de la marge, d'accès direct au lecteur, de pensée subversive, etc. Et il y a quand même toute une tradition technophobe très très forte qui est liée aux ludistes, hein, au mouvement des ludistes, hein, l'idée de la machine vient détruire l'homme. Et en particulier chez l'échappé, hein, il y a énormément de textes théoriques, très intéressants d'ailleurs, contre l'invasion numérique, le numérique qui nous aliène. Il y a
également
qui nous...
l'inverse, il y a toute une tradition de pensée, hein, comme entour une multitude de négris,
oui.
Oui. Qui porte le réseau, qui porte.
Oui, donc on est vraiment sur. Je trouve que c'est un instrument dont, en général, un outil, pardon, dont ils se sont pas encore, dont ils ont, à quelques exceptions près, dont ils se sont pas encore, dont ils n'ont pas pris toute la mesure et qu'ils n'ont pas totalement investi à l'image. Enfin, tu vois, c'est quelque chose dont ils pourraient beaucoup mieux se servir, beaucoup mieux utiliser. Il y a vraiment une réticence forte. Dans tous les entretiens que j'ai faits, cette réticence, elle était vraiment forte.
Est-ce que c'est pas lié au fait, c'est très très présent dans ta présentation, puis dans l'ouvrage, t'expliques vraiment très bien comment est-ce que finalement ces gens-là, leur référence, c'est quand même le champ éditorial,
oui.
Que les stratégies de distinction qui sont mises en œuvre, c'est à l'intérieur de ce champ-là, on joue avec les règles du jeu du champ éditorial, etc., etc. Même si on décide d'être en marge de ce champ-là, mais c'est quand même les références et toutes les stratégies et tactiques mises en place sont en liaison directe avec les règles du champ et avec, comme tu l'expliques, et ça c'est quand même un point très 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 intéressant, avec cette espèce de réaction un peu rétive au champ militant. On n'est pas des éditeurs militants, on est des éditeurs qui produisent de la théorie, etc., etc.
Oui, il y a un côté plus distingué de la théorie que de l'activisme.
C'est-à-dire que
quoi.
Quand il s'agit de se positionner, quand il s'agit de mettre en avant des compétences, etc., c'est celle du champ éditorial qui compte. Et en même temps, ces éditeurs indépendants produisent produisent des écrits critiques, diffusent de la pensée critique qui est censée être portée par des connaissances utiles à une autre sphère qui est celle de, je sais pas, disons, l'espace des mouvements sociaux, si on voulait voir là un sous-champ du champ politique, etc. Et on a l'impression que ça, c'est quand même ce qui les travaille et ce qui les porte, mais en même temps, leur positionnement est très lié à un champ spécifique, et du coup, il y a une espèce d'oubli. On a l'impression, dans la lecture de l'ouvrage et dans ce que tu nous as dit, on a une espèce d'oubli de leur public. Alors, est-ce qu'ils savent qui sont les gens qui les lisent? Est-ce qu'ils s'intéressent à ça? Est-ce qu'ils ont justement un intérêt à considérer ou avoir un retour sur l'efficace de cette production et de cette diffusion-là? Ou alors, justement, non, pas du tout. Et c'est très curieux, ça, cette espèce de tension-là. C'est une vraie contradiction.
Alors, moi, je leur posais à chaque fois la question de leur public. Est-ce que vous savez qui sont vos lecteurs? Qui vous lit? Et je suis toujours frappée par le flou des réponses, c'est-à-dire qu'ils sont très emmerdés, en fait, quand tu leur poses ça comme question. C'est-à-dire que, bon, ils rencontrent leur public, ils font souvent des signatures en librairie, ils interviennent dans des salons. C'est des gens qui vont à la rencontre de leur public. Hein. Il y a beaucoup de petits salons alternatifs du livre engagé, du livre politique, etc. Donc ils font beaucoup ce genre de choses. Mais ils sont en fait dans une sorte de flou qui me semble est le flou de la plupart des éditeurs. Tu trouverais ça en littérature aussi. Parce que, enfin, comme ça que je le perçois, on est quand même toujours dans des logiques de l'offre, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont créé leur structure éditoriale parce que ils considéraient que les livres qu'ils aiment, ils n'étaient pas publiés. Tu vois, il y a des auteurs importants qui n'étaient pas publiés. Donc, ils publient ce qu'ils aimeraient lire eux-mêmes. Donc, c'est une position, enfin, tu vois, assez narcissique d'une certaine façon, où avec l'idée de le porter vers les autres, évidemment, c'est très important, parce que si tu publies juste pour 3 personnes, c'est quand même un échec terrible. Mais l'idée de faire quelque chose qui leur ressemble et qu'ils auraient envie de lire. Donc, ça reste quand même... leur lecteur, je trouve... relève quand même pas mal du fantasme. Ils savent pas très bien. Ils pensent que c'est des militants, des gens. On tombe toujours sur ces trucs de ces idées de grand public cultivé, quoi, d'une certaine façon, que personne n'arrive jamais vraiment. On sait que c'est plutôt un lectorat urbain, masculin, avec un niveau scolaire important. Mais il y a aussi beaucoup d'autodidactes. Il y a une frange militante aussi, quand même, du lectorat. Ils vont pas aller faire des études marketing pour savoir qui sont leurs lecteurs. Donc bon, moi je trouve que le lecteur relève beaucoup du fantasme dans les milieux éditoriaux. C'est quelque chose que j'ai pu constater comme éditrice aussi, c'est qu'en général, c'est pas trop. Mais bon, c'est peut-être ça n'engage que moi. Hein. Oui.
Vu que généralement, d'autres maisons d'édition font dans la production de masse généraliste. Du coup, il y avait aussi en parallèle un besoin qui a été exprimé par cette sphère militante et engagée de quel type de production, qu'elle soit, je veux dire, littéraire ou dans le domaine des sciences sociales ou des sciences politiques, mais une production qui soit engagée.
Oui, mais souvent, ces éditeurs, quand ils ont commencé à... Quand ils ont créé leur maison d'édition, il n'y avait pas de demande particulière. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a qui se sont créés... Ceux qui se sont créés à la fin des années 90 et 2000, clairement, ils étaient quand même... Ils sentaient l'air du temps, d'ailleurs, dans les logiques un peu d'air du temps, hein, qui avait changé, où il y avait... On sentait que ça frémissait, qu'il y avait une demande, qu'il y avait un besoin au niveau du public. Mais il y en a beaucoup qui se sont créés. Cileps s'est créé bien avant... même la revue Agone, qui est après devenue la maison d'édition, a été créée en 1990. À cette époque, c'était quand même encore très diffus. Alors peut-être qu'on pouvait effectivement voir des indices hein, de ce frémissement, de ce regain d'intérêt pour les sciences humaines et pour le politique en général. Mais c'est vraiment quand même se lancer dans une aventure aussi compliquée ingrate quand même sur le point de vue économique. Il faut avoir une conviction très très forte. Il ne faut pas juste sentir un... Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai observé chez des petits éditeurs indépendants, mais qui sont sur d'autres secteurs, sur le secteur du pratique ou de la jeunesse, où on va peut-être plus être, et encore pas toujours, sur la volonté de répondre à une demande latente qu'ils n'auraient pas encore trouvé de moyen d'expression. Là, c'est quand même plus des logiques de production, de savoir alternatif, pour que les gens s'en saisissent et fassent bouger le monde avec ces outils. C'est vraiment l'idée d'outil d'émancipation, hein, le livre comme outil d'émancipation. Donc c'est moins dans une logique de réponse à la demande que de production d'une offre qui va réveiller la demande.
Donc au final, ça a aussi un aspect militant. Parce que c'est une forme de militantisme.
Oui, oui, mais un militantisme.
C'est une forme intellectuelle.
Oui. Tout à fait.
Et non pas seulement, comme vous le disiez à un certain moment, en fait, vous disiez que...
Je vois la différence entre engagement et militantisme.
Vous faisiez une différenciation entre le militantisme et l'engagement, entre le ressenti de ces éditeurs-là, entre militantisme et engagement.
Oui, oui.
Au final, c'est pas si dissociable que ça et...
Non, mais le terme d'engagement renvoie quand même beaucoup plus à une dimension intellectuelle que le terme de militantisme. Donc c'est pour ça que le terme d'engagement, d'éditeur engagé, est quelque chose qui qui est beaucoup plus spontanément utilisé par ces éditeurs que celui du militantisme. Mais après, c'est vrai qu'on peut aussi utiliser le terme de militantisme en disant oh, bah, ça, c'est du, ce que vous disiez, c'est une forme de militantisme. Oui, tout dépend de la façon dont on définit. Il y a des nuances subtiles. Mais eux, enfin, quand je disais que le militantisme était un repoussoir, c'est le militantisme traditionnel associé à un certain nombre de rigidités, de manque d'ouverture. Il y a un éditeur qui me disait oh, j'ai jamais pu être encarté, j'ai jamais pu, j'ai essayé plein de fois, mais j'arrive pas. J'ai besoin que ça circule, que l'air circule, avec toute une métaphores sur il fallait ouvrir les fenêtres, faut que l'air circule, faut que ça bouge. Donc c'est vraiment une association. Du syndicalisme traditionnel, du militantisme traditionnel à la sclérose, à la fermeture. Et ça, c'est, par contre, c'est quand même très, très fort. Mais c'est des topics qui dépassent largement ce monde-là, hein, qui est quand même quelque chose qui est très répandu aujourd'hui.
Qui est par ailleurs très défendu par les éditeurs qui n'ont pas eu d'engagement par ailleurs et qui n'est pas du tout défendu par les éditeurs qui ont été militants et pour beaucoup très encartés dans plusieurs choses pendant...
Ah, faudrait faire une cartographie vraiment très fine.
Ceci dit, c'est très juste parce que cette différence entre engagement et militant, elle me semble assez importante pour décrire leur travail. Et en même temps, ils sont assez focus sur certains trucs parce que, par exemple, si on prend le cas des éditions Amsterdam... Il y a une vraie ligne éditoriale, ils ne traduisent pas n'importe qui, ils ne publient pas n'importe qui, et que le choix effectivement des choses qui sont produites et diffusées répond à des engagements et répond non pas nécessairement à un engagement dans des organisations militantes qui porteraient les mêmes idées, mais correspond de fait à un engagement idéologique très très précis,
ouais.
Et à l'idée de mettre le paquet sur le postcolonial, etc., enfin, ce genre de choses. C'est aussi une forme assez directe de prise de position, en tout cas.
C'est une prise de position.
Pas simplement là, pour le coup, dans le champ éditorial, mais dans le champ de la pensée critique, d'une manière générale.
Ouais. Le fait aussi d'être, pour Amsterdam, d'être plutôt dans la théorie que dans les études empiriques. Il y a aussi quand même un choix de type d'écriture qui renvoie à certaines... aussi à des luttes dans le champ intellectuel qui sont très, très marquées. Ça ne va pas être les mêmes éditeurs qu'à La Dispute ou au Croquant, hein, ça c'est clair.
Sur le terme de militantisme, ça me faisait penser à une étude à laquelle j'ai participé sur Amnesty International, qui est quand même une structure assez ancienne, très structure, enfin il n'y a pas de... C'est très organisé, c'est très hiérarchisé, etc. Et les personnes, on a fait des entretiens avec 40 personnes qui sont dirigeantes, bénévoles et salariées chez Amnesty International France, pour se rendre compte que le terme de militant était très fortement rejeté. Parce que militant, ça renvoie au Parti communiste, à des organismes très structurés, où il n'y a pas de fluidité.
Ouais.
Et Amnesty en est une d'organisation très structurée, où il n'y a pas de fluidité, justement. Donc c'est un terme qui est, je pense, rejeté au-delà de l'édition indépendante dans d'autres
univers,
qui sont de gauche et qui sont critiques, etc., mais qui rejettent ce côté pour l'aspect, justement, lourdeur de la structure, manque de liberté de mouvement, etc.
Ah oui, c'est vraiment très marquant, c'est vrai. Et c'est intéressant
Aurélie,
que chez Amnesty.
Aurélie et Tristan, clair. Après.
Oui, pour revenir aussi sur cette question-là, ce qui m'a fait peur beaucoup de temps, c'est. Je fais le lien avec mes propres recherches, ce qu'on fait. Ça m'a beaucoup fait penser au milieu journalistique, hein, quand vous décrivez cette tension de ces éditeurs indépendants, vous décrivez entre le livre qui est un bien culturel, qui est pris dans la c'est la logique de marché. C'est exactement des discours qu'on trouve chez les journalistes. L'information n'est pas un bien comme les autres. Des structures médiatiques qui sont de moins en moins indépendantes au niveau de leur capital, mais bon, quand même certains le recherchent, on voit avec l'exemple dans les débats d'aujourd'hui, et avec des journalistes qui essayent de rester indépendants sur un plan intellectuel et politique et qui sont pris dans des tensions parce qu'ils appartiennent à un groupe, etc. Et donc, c'est des discours qu'on retrouve. Et chez les journalistes, il y a tout un tas de procédures qui sont mises en place de manière assez progressive, des chartes d'indépendance, des syndicats pour défendre leur indépendance éditoriale, qui sont assez forts quand même dans certaines structures qui sont comme Figaro, le syndicat des journalistes de Figaro essaye tant bien que mal de garder cette référence-là, la quête de la prise de conscience, tout ça c'est des procédures qui se sont mises en place petit à petit. auteurs indépendants. J'ai trouvé assez intéressant aussi que vous avez employé le terme de gatekeeper, qui est vraiment très très utilisé en journalisme, puisque dans les études des années 50-60, on dirait que le journaliste était le gatekeeper de l'information. Ça sera un peu moins le cas aujourd'hui. La tension entre amateurisme et professionnel, alors on l'a énormément aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un parallélisme entre les deux. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Si les éditeurs que vous avez rencontrés, avec qui vous avez des entretiens, éventuellement sont interrogés là-dessus. Et pour faire le lien avec la question du militantisme, on retrouve aussi un peu cette tension et ce discours qui n'est pas toujours très clair. Donc le journaliste se veut objectif, avec un regard neutre, etc., tout en étant quand même lui-même rattaché à certaines valeurs, avec un certain regard. Et la tension, objectivité, subjectivité, on la retrouve. Donc le journaliste refuse de faire du militantisme au sens strict, mais lui-même est porteur aussi d'un certain nombre d'idées.
Ah oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai qui m'avait frappé aussi, parce que quand on parle d'indépendance en particulier, c'est le monde, enfin un des premiers univers de référence, c'est le journalisme, qui c'est vraiment les médias où le terme d'indépendance est sans doute le plus investi et le plus crucial. Il serait presque même un peu, enfin il est très fort dans le monde de l'édition, mais je pense que dans le monde du journalisme il l'est encore plus. Donc j'ai pas mal regardé ce qui se passait effectivement au niveau des études sur le journalisme. Je pense qu'on pourrait aussi dire que la production d'informations, ça relève de ces logiques doubles, hein, de ces biens symboliques qui sont pris entre une logique commerciale et une logique censé être au-dessus, censé être autonome. Et quand on voit l'évolution historique les processus de concentration, de rationalisation sont encore plus violents dans le monde du journalisme quasiment que de celui de l'édition, avec une recomposition permanente. Donc les parallèles sont évidents et je trouve que c'est super intéressant de voir un peu ce qui se passe au niveau du journalisme. J'ai regardé du côté d'autres industries culturelles comme la musique et les mondes artistiques, et journalisme c'est quelque chose de vraiment, je pense qu'il y a, même au niveau des rhétoriques utilisées, c'est les pressions. Alors il y a des distinguos évidemment, mais on est sur les mêmes schémas très très clairement. Et ce que vous disiez sur les discours des journalistes qui essayent de garder leur indépendance tout en sachant qu'ils appartiennent à un groupe, qu'ils doivent rendre des comptes, ça on le trouve très clairement. Si par exemple des entretiens avec des éditeurs de sciences humaines ou d'essai chez Gallimard, Le Seuil, Flammarion, alors là très clairement je pense que c'est les mêmes discours, c'est-à-dire certes, je travaille pour Hachette, mais en même temps, c'est une collection, on fait absolument ce qu'on veut, en essayant vraiment d'être sur des lignes éditoriales indépendantes au sein d'un groupe, avec la nécessité de se justifier en permanence en plus, qui donne des contraintes chez les gens qui sont assez fascinantes. Il y a un mémoire qui avait été fait sur justement les producteurs de livres. Les livres hérétiques dans l'édition généraliste, hein, et de voir à quel point ils étaient obligés de reprendre les valeurs des petits éditeurs critiques en les reprenant à leur compte et en mettant tout le temps en avant le fait qu'ils étaient indépendants, que justement le grand groupe leur donnait la sécurité financière, mais qu'après eux ils faisaient tout à fait ce qu'ils voulaient. Bon. Donc je pense que c'est très très proche. Non, justement, je pense que c'est le monde journalistique qui allait le plus loin, bon, pour des raisons historiques claires. Mais il n'y a pas l'équivalent de la clause de conscience dans l'édition. Bon, en même temps, le numérique, l'impact du numérique et des nouvelles technologies sur le monde journalistique est encore plus fort. Et là, donne lieu à des espaces de liberté qui, pour l'instant, ont peut-être été moins investis par les éditeurs que par les journalistes. Ça serait intéressant à creuser aussi, ça.
Tristan.
Merci pour cet exposé. J'avais une petite question, parce que en t'écoutant, on a l'impression d'avoir affaire à un phénomène relativement national. À beaucoup de moments, ce sont des valeurs, une histoire, une inscription, des figures comme Maspero. Donc on se se demande est-ce qu'il y a là-dedans une dimension transnationale. Alors il y a la question des traductions. Est-ce que les traductions sont autant de liens avec d'autres maisons d'édition indépendantes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une organisation transnationale? Tu parlais de Verso tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des liens avec Verso, même s'il y a des différences de philosophie? Donc c'est quid de l'organisation transnationale de ces éditeurs indépendants, dont une partie du catalogue, pour se distinguer des éditeurs installés, mainstream, semble être plus national en matière de sciences humaines. Donc, peut-être là un petit décalage. Et puis l'autre question sur un autre sujet, aucun rapport. Quoique, c'est qu'il y a beaucoup insisté sur l'aspect plutôt production, et il y a un segment stratégique de la filière édition qui a peu été abordé, c'est celui de la distribution. Comment est-ce que des éditeurs qui réussissent à produire réussissent à s'affranchir du poids des grands éditeurs, qu'exercent les grands éditeurs en matière de distribution? Et donc là, le lien avec la question internationale, c'est... Bon, ils vendent en France. Est-ce qu'ils vendent leurs livres sur le marché francophone? Comment est-ce qu'ils font pour vendre leurs livres? Ou est-ce qu'en matière de distribution aussi, il y a un secteur indépendant, un réseau de librairies ami?
Alors, d'abord sur le phénomène national, c'est vrai que j'ai beaucoup resitué ces éditeurs dans une tradition longue, enfin en tout cas dans l'après-guerre, parce que ça me semblait indispensable pour comprendre. Tu vois, il y avait ce côté spontané, un peu nouveaux éditeurs critiques, bon, qui est un peu un marronnier journalistique pour le coup. Et d'ailleurs, les journalistes adorent ce genre d'éditeurs, ne serait-ce que pour en parler. Bon, ils parlent pas beaucoup de leurs livres, mais le côté. Il y a des dossiers dans Nouvel Obs, dans Libération, les nouveaux éditeurs critiques, les nouveaux éditeurs engagés, c'est un truc super porteur, quoi. Donc, donc je voulais essayer de voir un peu, est-ce que c'était si nouveau que ça? Ça me semblait important d'aller voir un peu en arrière. Mais j'ai aussi essayé de voir un peu sur le côté, dans d'autres pays, donc un petit terrain en Grande-Bretagne, pour comprendre que l'inscription nationale est très très importante, même si le phénomène est général. Je pense que tous les pays ont leur frange d'éditeurs engagés. En Espagne, t'as toute une mouvance d'éditeurs anarchistes, hein, beaucoup autour de Barcelone, un petit peu à Madrid aussi. Enfin, d'ailleurs, ils ont beaucoup de liens entre eux, mais ça, c'est la spécificité des mouvements anarchistes et libertaires. C'est-à-dire qu'en général, ils se connaissent entre eux, Italie, Allemagne, Espagne, les trois principaux. Et alors, c'est des moyens d'échange très informels, c'est-à-dire que ils se cèdent les titres à titre gratuit, en général, pour des traductions. Ils vont absolument pas passer par des agents ou par des contrats, évidemment, mais ils savent très bien que machin en Allemagne a récupéré tel titre et au mieux ils leur ont dit qu'ils allaient traduire le bouquin, au pire ils ont piraté le truc sans rien dire et c'est pas grave, on est entre nous, voilà. Donc t'as une sorte de, bon là c'est le côté vraiment pour le coup très très politique. Sinon, le rôle de Verso m'a semblé intéressant parce que Verso est aussi un modèle important, vraiment, pour les éditeurs français. C'est un éditeur qui a une aura forte, hein, qui est liée à Perry Anderson, à la New Left Review et tout ça. Donc, il y a un côté quand même très magistère moral un peu de Verso, qui en plus existe depuis longtemps, qui est toujours, qui sera peut-être un peu ce que Maspero aurait été s'il était resté toute proportion gardée. C'est très difficile de faire des parallèles. Donc il y a beaucoup d'échanges entre Verso et ses éditeurs, mais Verso échange aussi beaucoup en termes de droits de traduction avec Fayard, enfin tu vois d'autres des éditeurs qui sont pas forcément critiques, donc ils sont pas uniquement sur cette ligne là. Verso a traduit, par exemple, « Le nouvel esprit du capitalisme » de Boltanski. Donc là, c'était Gallimard. Ils sont clairement, là aussi, à la frontière des deux univers. Mais bon, ils regardent beaucoup ils regardent beaucoup les catalogues. Je leur demandais comment ils travaillaient. Ils regardent beaucoup les catalogues des éditeurs universitaires anglo-saxons. Alors, c'est là où le parallèle est difficile, parce que si on prend les États-Unis, où il y a... C'est très riche aussi en édition indépendante. Hein. Il y a l'édition intégrée, mais il y a aussi une myriade de petits éditeurs engagés, politiques, littéraires, j'en parle même pas. Mais bon, il y a la Maison de Chiffrine, il y a Seven Stories, enfin, il y en a plusieurs. Les liens sont importants, ils échangent. Bon, il y a une personnalité comme Chiffrine qui joue un rôle très très important de passeur quand même entre le monde anglo-saxon et le monde français, et qui est là aussi une figure de référence dont j'ai pas du tout parlé, mais qui est essentielle. Son livre, L'édition sans éditeur, est vraiment la référence absolue. Il est invité dans tous les salons, toutes les rencontres, il est invité. C'est un peu l'invité obligatoire. Donc il joue un rôle de passeur important, mais ce qui est compliqué aux États-Unis, c'est que souvent les catalogues, la structure est très très différente aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est souvent des structures, c'est des fondations, c'est du non lucratif carrément. La frontière, elle est forte entre les maisons d'édition qui sont capitalistes, qui doivent faire des profits, et puis toute la frange d'édition non lucrative qui dépend des fondations et des presses universitaires. Et les catalogues des maisons d'édition universitaires, des presses universitaires aux États-Unis, sont un vivier très très important dans les deux sens. Ça circule énormément, mais ça va plus être des structures comme ça qui sont quand même très différentes de petits indépendants français. Mais oui, il y a une dimension transnationale importante qui, bien sûr, bon, la traduction, c'est le vecteur premier des échanges de droits. Mais il y a aussi des passeurs, des gens qui jouent comme ça des rôles. Chez Verso, il y en a un qui est beaucoup en France, qui est lié à Amsterdam. Ces gens voyagent aux États-Unis. Enfin, Amsterdam regarde énormément ce qui se fait aux États-Unis. Le côté plus européen pour les mouvances anarchistes. Donc voilà, il y a une dimension transnationale, même si elle ne s'inscrit pas dans des structures, tu vois, dans un appareil. Là, j'aurais du mal à repérer. Il y a l'Alliance des éditeurs indépendants, mais c'est beaucoup plus... c'est plus lié quand même au Maghreb, à l'Afrique, un petit peu à l'Amérique latine, mais pas très fort. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de... Et puis avec l'Amérique latine, un petit peu quand même, parce que tu as ce modèle... les éditeurs chiliens, argentins, on regarde un petit peu, mais là, tu es vraiment dans des rapports de domination qui sont quand même pas très égaux, hein, enfin, pour le coup, qui sont... Donc voilà pour la dimension transnationale. C'est peut-être avant de passer à l'autre.
Avant la deuxième, c'était avec Miguel, quelque chose en rapport avec ça.
Non, j'aimerais aller d'un autre côté. C'est-à-dire pour moi, je n'avais pas réfléchi au monde éditorial par rapport au capitalisme. Que c'est pour moi difficile de s'en sortir. Et l'expérience Zapatiste, c'est intéressant d'un autre côté, parce que c'est la page web dans laquelle on met tous les rapports.
Ouais.
Et bien sûr, il y a une production très importante. Et ce qui a écrit Marc, c'est le commandant de la révolte Zapatiste. Ce que je trouve, c'est que on pourrait parler plutôt d'activisme, c'est-à-dire l'activiste, c'est une personne qui connaît très bien la théorie, mais surtout la pratique, et il faut aller sur la pratique. Alors pour aller sur la pratique, il faut bien sûr la théorie, et le monde de la production, c'est important. Et c'est mal, Alexa, je viens de trouver ce petit livre, c'est des lettres écrites entre le sous-commandant de Marcos et un philosophe mexicain d'origine espagnole qui s'appelle Luis Villora. Alors, ils ont produit ce livre et toutes les données, ça va être pour les communautés zapatistes. Alors maintenant, il y a beaucoup de livres qui sont sortis comme ça. C'est-à-dire, sont tous les écrits qui vont dans ces quelques éditoriales qui font la production et après, ça va aller pour les communautés zapatistes. Alors, ce que je me pose par rapport à ce que vous avez dit, c'est quel est le rapport avec les médias, surtout les pages web. Parce que, par exemple, ce que je viens de voir ici en France, dans la réunion des comités zapatistes européens, c'est que tous les comités prendre toutes les données, les images, la lutte, surtout la lutte des résistances, des douleurs, des côtés des communautés zapatistes et dans le monde, ils font des photocopies, parce que pas tout le monde n'a pas d'internet. Après, on partage, il y a des personnes qui sont chargées d'écrire, de reproduire, et voilà, c'est un monde différent que le monde éditorial qui disait capitaliste dans la logique de capital, de produire, de donner de l'argent, voilà, tout ça. Non? Et bien sûr que dans l'activisme, c'est clair, il y a des personnes engagées pour traduire. Ici, par exemple, dans les comités zapatistes françaises, il y a des personnes qui parlent aussi bien en français qu'en espagnol, et tous les communiqués que maintenant sont beaucoup, ils traduisent tout de suite, ils les mettent sur la page du comité zapatiste français. Et ça va sur la page du comité, sur la page de l'armée zapatiste au Mexico. Alors, c'est sur la page de l'Ejército zapatiste de l'Éducation nationale, on a tout. Et on a les traductions qui viennent en français, en anglais, en portugais, en français. Et voilà, c'est un monde différent. C'est pas si...
Oui, je pense que c'est... je vois très bien ce que vous voulez dire. J'aurais du mal à trouver un équivalent en France. Je ne sais pas, Fabien, si tu... où le lien vraiment serait entre, effectivement, produire des outils théoriques qui vont être mobilisés directement pour la lutte dans une perspective d'activiste, comme vous dites. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait plus creuser dans l'idée d'aller voir un peu plus les liens avec Internet. Moi, au-delà de quelques blogs, de certains portails aussi, il y a des portails d'agrégation de contenu comme Réseaunet, par exemple, qui agrège, mais c'est plutôt des articles de presse hein, ou des articles publiés sur Internet, mais assez peu de contenu éditorial, parce que le contenu éditorial a comme caractéristique d'être quelque chose de plus volumineux. Lire un livre entier sur. En général, on commence à regarder. Bon, il y a un bel exemple dont j'ai pas du tout parlé, qui est quand même L'insurrection qui vient. Ce livre mystérieux qui était publié par La Fabrique, et puis il y a eu toute l'affaire Coupa après. Bon, ce livre a été mis, La Fabrique l'avait mis en ligne aussi, à disposition du public. Il a été énormément visité, téléchargé. Donc il y a des exemples comme ça de mise, ou zone, dont l'idée de zone, c'est de... que tous les textes soient disponibles pour justement toucher un public plus militant. Enfin, le responsable du label Zone dit qu'il a fait un deal avec François Gèze en lui disant je suis d'accord pour prendre en charge ça, mais la condition c'est que les textes, pour toucher un public plus militant, que les textes circulent plus et qu'il n'y ait pas d'obstacle monétaire, il faut que les textes soient mis en ligne gratuitement tout de suite, en même temps que les ouvrages en librairie. Mais j'aurais pas de comparaison avec la France immédiatement comme ça.
Sur la distribution.
Alors sur la distribution, c'est très très important. J'en ai parlé pas mal dans le livre et pas du tout ici, c'est vrai. Alors il y a deux niveaux. Il y a l'aspect vraiment distribution parce que les éditeurs, ils ont un diffuseur donc qui va les représenter en librairie. Donc, certains sont en auto-diffusion, ce qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes visiter les libraires, les convaincre de prendre des ouvrages. Ils ne vont pas avoir des représentants qui vont faire ce travail pour eux. Et puis, il y a l'aspect distribution qui est encore plus compliqué, c'est-à-dire qu'après, les livres, quand le libraire d'Angoulême ou de Périgueux en commande deux, bah, il faut aller à la poste, mettre les livres. Il y a tout un travail super lourd. Il y en a qui l'ont fait pendant des années. C'est assez homérique, hein. Ils racontent ça. Ils veulent plus jamais faire ça de leur vie. C'est juste horrible. En même temps, la diffusion-distribution, c'est un gros, gros coût pour des petits éditeurs. Hein. C'est une grosse part de leur chiffre d'affaires qui va directement qui va chez le diffuseur-distributeur, ça peut vraiment les fragiliser et même leur nuire énormément. Donc l'enjeu de la diffusion-distribution est énorme. Et il y a eu des tentatives, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Si on prend l'édition aujourd'hui, ce qui est symptomatique, c'est que créer une maison d'édition, critique ou pas, c'est extrêmement facile, hein, il n'y a pas de droit d'entrée. On peut faire ça dans sa chambre avec deux, trois logiciels, une adresse, un ordinateur, ça coûte un euro. Enfin, c'est... Et puis après, bon, publier un bouquin tiré, je sais pas, à 1000 exemplaires, on a pour 2000 euros au maximum, quoi. Donc c'est pas très compliqué, hein. Plein de gens peuvent le faire. Donc l'accès est totalement ouvert. Par contre, le goulet d'étranglement, il est au niveau de la librairie, très clairement, hein. Là, par contre, c'est là que les choses deviennent compliquées, parce que les libraires ont un espace limité, qui peuvent pas tout exposer, qui a une production pléthorique. Le nombre de titres publiés par an est vertigineux. Bon, c'est comme dans le milieu du cinéma, hein, avec les sorties, qui fait que tout le monde est noyé dans une espèce de flux incessant. Et pour arriver à être bien représenté en librairie, c'est très, très compliqué. Donc, il y a une sorte d'alliance de fait, hein, entre ces éditeurs, ça vaut dans le milieu littéraire aussi, et les libraires indépendants. Alors, vraiment, le maillon de la librairie, il est central pour ces éditeurs. Ils passent leur temps à valoriser les libraires en soulignant à quel point leur rôle est indispensable et que sans eux, ils n'existeraient pas. Et il y a vraiment une alliance très forte entre ces deux maillons de la chaîne qui sont confrontés à des contraintes objectives similaires, qui fait que c'est aussi une alliance logique. Et puis, ils partagent des dispositions très, très proches aussi, un rapport au livre, à l'écrit, à la culture, etc. Donc, les libraires indépendants sont très, très importants pour la survie de ces éditeurs. Et en amont, donc j'ai regardé s'il y avait des structures alternatives qui s'étaient montées de diffusion-distribution, ce qui semblait un peu logique quand même, quand on a une cohérence comme ça. Alors, il y a eu deux tentatives qui, malheureusement, toutes les deux, enfin, il y en a eu un peu plus, mais je vais parler surtout de ces deux-là. Il y en a une qui s'appelle Court Circuit, qui a existé jusqu'à très récemment, là, qui vient juste d'arrêter, et qui avait réussi à agréger un certain nombre d'éditeurs plutôt dans la mouvance libertaire, de petits éditeurs, à la fois littéraires et de critiques sociales. Ils avaient 20-25 éditeurs. Et ils tournaient avec deux représentants, ce qui n'est pas beaucoup, hein, deux représentants pour tout le territoire national, ou deux et demi, tu vois, avec des mi-temps, des choses comme ça. Et c'était, ils étaient perpétuellement sur le fil du rasoir, quoi. Le truc financièrement complètement casse-gueule. Mais ils ont tenu plus de 10 ans. C'est un éditeur de bande dessinée, en plus, qui est à l'origine, Vertige Graphique, qui est à l'origine de cette structure. Voilà, ça a fait long feu. Ça a fini par avec en plus, il y avait une dimension militante forte, c'est-à-dire que les éditeurs voulaient vraiment. Il y avait cette idée qu'il faut se donner les moyens d'une diffusion autonome et pas dépendre des, parce que les grandes équipes de diffusion distribution, c'est Hachette, c'est Gallimard avec la CDE Sodis, c'est Flammarion, c'est tous les grands groupes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal de vouloir développer une production éditoriale indépendante et de se retrouver au moment crucial qui est celui de la mise sur le marché entre dépendant de structures qui obéissent à des critères qui sont pas ceux qu'ils veulent défendre. Donc voilà, donc court-circuit. Une autre structure encore plus radicale, qui se présentait un peu comme le Bandung, hein, je crois qu'il se présentait comme le Bandung de l'édition indépendante, hein, c'est-à-dire ça, voilà, il voulait, il y avait toutes ces références intéressantes. Leur nom m'échappe, là, j'arrive plus. Ils faisaient de la vidéo et de la musique aussi, donc ils diffusaient beaucoup dans les lieux alternatifs, les cafés, les lieux un peu alternatifs, surtout à Paris. Et bon, ça, c'était une inorganisation totale. Souvent, ce qui fait pêcher ces structures, c'est le fait qu'il y a une logistique qui est très lourde derrière, et au niveau informatique en particulier. Et quand ils n'assurent pas à ce niveau-là, le truc tient pas très longtemps. Ça fait des retours complètement erratiques. Enfin, c'est un cauchemar pour les éditeurs. Et dernière tentative, celle-là qui a duré, qui a été la plus solide, c'est Ateles, qui était portée par Agone et par d'autres, par ils étaient 4 ou 5 éditeurs. La plupart étaient... alors, c'est A pour Agone, T, c'est plus Télème, je sais plus, des éditeurs littéraires aussi. Et là, ils avaient agrégé un grand nombre d'éditeurs engagés aussi au niveau de la diffusion, c'est-à-dire en laissant la distribution aux Belles Lettres, qui est une structure intermédiaire, mais pour la diffusion, la représentation en librairie. Ils avaient un site qui marchait très bien aussi, qui assurait près de 15-20% de leur chiffre d'affaires, de la vente en ligne directement. Et Ateles, malheureusement, a fini aussi par mettre la clé sous la porte, disparaître. Tous les éditeurs sont passés aux Belles Lettres maintenant, du fait, en fait, de la disproportion de moyens et d'ambition entre Agone et les autres. C'est-à-dire qu'Agone, même relativement par rapport à ce milieu de l'édition alternative, était tellement écrasant que les logiques mutualistes n'arrivaient plus à fonctionner. Donc ils ont fini par s'auto-saborder. Ça a été très très mal vécu dans ces milieux-là, parce qu'Atélès représentait vraiment quelque chose de fort. C'est un peu le seul modèle alternatif au niveau de la diffusion-distribution. Et aujourd'hui, ce qui leur reste, c'est soit être autodiffusé, autodistribué, mais bon, avec les limites qu'on connaît, c'est quand même très compliqué, soit de faire partie de structures intermédiaires. Il reste quelques structures intermédiaires en France de diffusion-distribution qui ne soient pas Hachette, UG Distribution, etc. Et c'est surtout Harmonia Mundi qui est vraiment qui joue. Alors Harmonia Mundi, symboliquement, c'est intéressant aussi parce qu'ils sont à Arles. Et c'est aussi, ils ne sont pas liés vraiment. Ils se sont développés sur la musique. Hein, Harmonia Mundi, à l'origine, c'est de la musique. Mais ils ont développé une activité très importante de diffusion-distribution. Et en plus, ils ont une exigence de qualité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être portés par Harmonia Mundi. C'est un signe de distinction. La fabrique est diffusée par. Ça montre qu'on est un éditeur sérieux, professionnel. C'est, voilà, c'est un très très bon diffuseur-distributeur. Oui.
Oui, non, je voulais ajouter d'autres trucs par rapport à tout ça. Et bon, déjà, juste comme tu as parlé à Mélanie, le problème avec eux, même s'ils font un très bon boulot, tout ça, comme devait l'être, c'est qu'il y a des places limitées.
Oui. En fait.
Et du coup, même s'il y a beaucoup d'éditeurs, même d'éditeurs de qualité qui veulent rentrer là-dedans, ah, oui, bah, ils ne peuvent pas. Parce que justement, comme eux, ils font un choix de qualité, ils ne peuvent pas avoir 2000 clients, parce que s'ils ont plus de 20, bah, ils vont perdre cette qualité aussi. Du coup, ça, c'est un facteur qui est très intéressant, problématique, mais bon. Et c'est ce qu'il y a. Et je voulais parler, bah, vu que vous avez demandé les liens transnationaux et tout ça, moi, je m'intéresse notamment à l'édition indépendante en Amérique latine. Moi, j'ai travaillé un peu aussi sur les éditeurs le plus petit en France, mais là, je travaille sur l'Amérique latine, quelques pays notamment. Mais en gros, c'est pour dire très rapidement qu'il y a beaucoup de choses similaires, en fait, je trouve, aujourd'hui. Même si moi, je travaille plus sur les littéraires que les critiques, au niveau du discours, quand même, on retrouve les mêmes vecteurs. Souvent, même les littéraires, ils sont très à gauche. D'une certaine façon, même s'ils ne le trouvent pas dans leur collection, par moi, par le choix des auteurs et tout ça, mais dans leur conception de l'édition, ils sont assez à gauche. Et en Amérique latine, la plupart des fois, il y a un penchant aussi souvent assez anti-impérialiste, en fait, que ce soit anti-américain ou anti-espagnol. Rien contre les Espagnols au niveau culturel, je pense que pour certains éditeurs, surtout littéraires, c'est déjà du passé. Ils reconnaissent même la valeur des éditeurs indépendants espagnols, surtout les Catalans, l'Anagramme, comme des références. Mais ce côté, bon, vous êtes là et vous êtes les chefs et nous, on est quand même chez nous. Et du coup, je pense que ça, quand même, c'était la vision d'une génération, peut-être celle d'avant. Les éditeurs qui ont commencé dans les années 70, 80 ou juste après la dictature, ça dépend des pays. Et aujourd'hui, chez les jeunes, ceux qui ont vu naître leur maison à partir des années 2000, fin des années 90, il y a aussi un côté assez à gauche, je trouve, mais plus ludique et plus relaxé, si on peut les dire de cette façon, dans le sens où ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ils ont un discours, voilà, bon, nous on est contre ça, contre ça, contre ça, mais surtout, si moi j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, je suis content. Et c'est un côté assez intéressant parce qu'il y a toute une remise en question, bon, de là à la pratique, c'est très difficile, mais la remise en question, elle est constante chez la moitié ou un peu plus de la moitié de ce type d'éditeur. Ce qu'ils disent, qu'il y a une vieille édition, l'édition traditionnelle et une nouvelle édition. Et ça, ce discours-là, ça parle directement de la distribution. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui voudraient abolir les intermédiaires. Ils le disent directement, en fait. Et il y a quelques maisons, des cas, souvent c'est des cas spécifiques, qui arrivent à trouver un moyen super original lié au contexte, qui arrivent à... Bon, ils arrivent à contourner le système, en fait. Et ça marche parce qu'aussi, ils véhiculent énormément de... Moi, ce que j'appelle des histoires, des sortes de mythologies, de qui ils sont, de pourquoi ils font ce qu'ils font. Et du coup, il y a un public qui adhère énormément, comme des groupies, d'une certaine façon, et ça leur fait marcher, et jusqu'à un certain moment. Et c'est très intéressant parce qu'au niveau aussi de la distribution, si ça marche ou si ça ne marche pas, leurs idées originales, ils visent beaucoup sur l'imagination, etc., que ce soit dans les collections ou dans leur façon de faire de l'édition. Il y a aussi ce besoin, comme tu disais, de la librairie indépendante, il y a un besoin énorme. En Amérique latine, ben, il y en a très peu, il y en a de moins en moins. Et il y a du coup cette sorte de dissymétrie entre éditeurs indépendants qui ont besoin des libraires indépendants. Et on a tendance à croire que les libraires indépendants ont besoin aussi des éditeurs indépendants, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des libraires indépendants qui peuvent vendre à des choses qui ne sont pas indépendantes. Ben, qu'ils peuvent fonctionner de façon indépendante, mais ils peuvent vendre des best-sellers ou des choses comme ça, et pas que des indépendants. Et juste, je finis avec ça, et y a, on le voit aussi, il y a certaines maisons d'édition qui commencent à créer des nouveaux lieux, justement parce qu'il y a un manque de librairies indépendantes et tout ça. Et c'est des lieux qui ne vont pas se cantonner à être que des libraires, mais des centres culturels pour la plupart, où il y a une autre vie d'une certaine façon qui commence à se créer. Et aussi parce qu'il y a un renouveau de ça, il y a, je pense au niveau symbolique, ça commence à très bien marcher pour certains. Parce qu'il y a aussi quelques auteurs, c'est des choses qu'on arrive à voir pour voir que ce capital symbolique marche de ces petites maisons d'édition indépendantes, des auteurs très reconnus par la critique, par le public certain, et je sais pas, César Aira, Vedati, Villamata, ces gens d'écrivains assez importants, ils envoient leurs textes à ces éditeurs-là, presque au choix, comme ça ils disent, toi tu fais le bon boulot, tiens je te l'offre beaucoup de fois, et ça... Bon, il y a une vitalité, je pense, qui est importante, même s'il y a une précarité énorme, mais ça vit d'une certaine façon.
Est-ce qu'ils investissent plus les nouvelles technologies, comme il n'y a pas cette réticence?
Ça dépend. Il y en a beaucoup qui le font, il y a beaucoup de jeux sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour certains, beaucoup Twitter, aussi pour se rencontrer, etc. Et il y en a quelques-uns, bah je pense aussi à quelques projets de revues qui ont des sens éditoriaux assez proches à tout ça. Ils mettent aussi leurs choses sur Internet, gratuitement. Et c'est même une volonté, et ça marche, comme tu disais, de dire... Il y avait des chiffres donnés, il y avait des éditeurs qui disaient, nous par exemple, on a vendu notre revue à 8000 exemplaires. 8000 exemplaires, ça veut dire qu'on est en équilibre, même on gagne un peu de thunes pour une année ou un truc comme ça. Et on a été vu sur Internet télécharger plus de 700 000 fois. Du coup, pour nous, c'est une réussite énorme parce qu'on vit et on est connu. Mmh. Et du coup, je pense qu'il y a des choses comme ça où ils y vont beaucoup plus que les éditeurs critiques ici. Au moins en termes de visibilité. Je ne sais pas si en termes de ventes, peut-être moins, mais en termes de visibilité, ils essayent d'être présents.
Une dernière réaction, un contrepoint peut-être de Sophie après, et puis je vous propose de... mettre fin à la séance.
Quand tu parles d'Amérique latine, moi j'essaie de faire un peu l'analogie avec le Maghreb. Et je pense aussi que l'Amérique latine, c'est l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont très démocratisées dans une société, dans un contexte sociopolitique particulier. Par exemple, si j'essaye de comparer avec le Maghreb, donc il y a éventuellement visiblement une démocratisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais qui n'est pas aussi accessible et aussi importante que celle, par exemple, je fais l'analogie avec le Maghreb parce que quand même c'est deux régions qui ont été sous dictature, des pays qui ont connu des dictatures, donc après la dictature une libéralisation, mais beaucoup plus, bon je vois pas ça je ne vois pas ça sous l'angle de la libéralisation capitaliste, mais beaucoup plus une libéralisation, une démocratisation sociétale. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que ça a pris de l'importance parce que le contexte aussi de la démocratisation importante des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de la société en elle-même est beaucoup plus visible et beaucoup plus importante que celle, par exemple, du Maghreb ou de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, où le contexte sociopolitique est quand même différent. Donc, voilà.
Le mot de la fin pour Sophie.
Oui, tout à fait, mais là, justement, pour ce type d'éditeur, c'est quand même, comme je ne pas, c'est le livre. Il n'y a pas d'éditeurs dans les campagnes, et les bouquins, ils n'arrivent pas à l'avoir. C'est vrai qu'on met de dire ça, parce que ça paraît bien, et ça se cantonne même à 3-4 villes. des pays comme